Cube Radio. Jonathan Trudeau.
Joe Trudeau. Et Maude Boutet. Maude Boutet. Franchement dit.
Cube Radio.
Bon vendredi, aujourd'hui on est le 22 mai 2020. Mon nom est Jonathan Trudeau. Bienvenue. Tant franchement dit, bienvenue à Cube Radio en cette superbe journée, un merveilleux vendredi, Maude Boutet. Oh, que ça fait du bien.
Yes, yeah, sangria.
Et ça se baigne, nous autres, ici, là. Mes enfants encore dans la piscine hier.
Ah, le chauffe-eau, moi dire, chance. Là. Ah, voyons, ouais, c'était le moment pour partir le chauffe-eau.
Mais là, en fait, ça fait plusieurs jours que je l'ai parti parce qu'on est parti d'une température de 54 degrés dans la piscine. Et là, hier... On a frappé le poteau, là. On a pogné le 80, là.
Ah, ça, c'est parfait.
On a pogné le 80 en route vers le 85-88. Je te jure qu'il n'y a rien qui va m'empêcher de garder cette piscine-là à des niveaux de 88-90 en période de pseudo-confinement, de pandémie. Oh que ça va y aller.
Tu vas en profiter non seulement pour la fin de semaine, mais même pour la semaine prochaine.
Oui.
Si je me fie aux prévisions.
Demain, par exemple, je ne sais pas vous à Montréal, mais à Québec, ça va être un petit samedi fret. Il annonce 13 degrés demain, nous autres.
Non, pas ici. on sera dans la vingtaine de degrés, là, si je me rappelle bien.
Bon, gang de baveux. Je ne sais pas
mais
si...
Mais vois-tu, j'ai pas de piscine, fake.
Ah, OK.
Y a tout ce point-là. Je te laisse le point à crinquant à 90, vous allez être correct.
Juste pour toi, m'a t'envoyé des photos. 22. Je sais pas si la rainette Faux-Grillon est confortable à 15 degrés. Je reviens un instant là-dessus parce que je blaguais à ce sujet-là avec Richard dans la transition, mais tu me rappelais à juste titre que lorsque j'ai parlé également du suceur cuivré, qui lui aussi empêche des projets de développement, là, un poisson avec une drôle de bouche, je pensais que ça faisait comme 2 ans, mais non, ça fait quelques mois, là. Et qu'on a l'impression que
ça fait un an. Puis, sais-tu quoi, en voulant me rappeler c'était quoi une rainette Faux-Grillon, je viens de tomber sur une vidéo YouTube là, de ce que ça fait comme bruit une rainette Faux-Grillon. Veux-tu qu'on... Quel doux son! Imagine ça, là. Une belle soirée d'été. Puis là, elle gonfle la babine, tabarnouche.
Puis là, juste à côté, t'as un suceur cuivré. Je trouve ça ridicule, sérieusement. Horrible. Je sais que quand quelqu'un tient le genre de discours que je tiens là, qu'on ridiculise ça, automatiquement, tu te fais accuser de ne pas aimer l'environnement, d'être...
J'adore les animaux.
Écoute, j'adore les animaux. Je veux qu'on diminue notre empreinte. Écoute, je suis de ceux qui, malgré le fait que je fais la promotion du troisième lien à Québec, pense que la pandémie, pas juste au Québec, pas juste au Canada, de façon mondiale, là, est une opportunité hors du commun d'accélérer notre transition énergétique. Tu sais, de relancer l'économie en développant de nouvelles façons de faire, de nouvelles énergies, de changer notre focus de place. Je suis tout à fait en faveur de ça. Mais d'empêcher un développement immobilier à Candiac, parce qu'il y a une partie du plan qui tombait dans une zone humide ou un milieu humide où il y a des rainettes Faux-Grillon. C'est une petite grenouille. Et je comprends le cycle de la vie, là, en fait, la chaîne alimentaire, voilà. Je comprends, là, les petites bébites sont mangées par des plus grosses, qui sont mangées par des plus grosses, qui sont mangées par des plus grosses, puis tout le monde a son importance, les araignées ont leur importance, les seins... Mais d'empêcher un développement à cause de la rainette Faux-Grillon, que ça se ramasse en cour supérieure et que là, les propriétaires songent à se rendre jusqu'en cour suprême pour évaluer si la rainette Faux-Grillon a comme un droit acquis tellement important qu'elle peut empêcher le développement immobilier, je trouve ça tellement cave. Là. Toi, l'ami des animaux, elle fait jouer son son.
Je suis pas capable de prendre d'être sérieuse. Un matin, j'ai un peu de misère, mais oui. Écoute, j'ai de la misère à te dire que ça me fait quelque chose, que c'est...
La couleuvre brune.
Existe plus.
On a gossé pour le développement, pour les plans de l'échangeur Turcot. L'échangeur Turcot tombait en morceaux, là. En morceaux et on s'obstinait à savoir combien de couleuvres brunes seraient relocalisées. On jouait avec notre santé, là. Je me souviens d'une rencontre, je l'ai déjà raconté en nombre, je pense, mais d'une rencontre que j'avais eue au cabinet du PM. Je travaillais pour M. Charest à l'époque. Et notre chef de cabinet, qui était un homme des fois dur à décoder, mais qui était incroyablement efficace, qu'on aimait beaucoup, Dan Gagné, ben là, il nous dit j'ai eu un rapport sur l'échangeur Turcot. Puis il dit, depuis que j'ai lu le rapport, là, quand je suis capable, je demande à mon chauffeur de prendre un autre chemin. Okay. Parce qu'il y avait un chauffeur, le chef de cabinet du premier ministre. Il était comme, quoi? Il dit, non, c'est parce que c'est tellement préoccupant que quand je peux, je prends un autre chemin.
Ah, oui.
Et pendant ce temps-là, on tataouine, puis c'est la couleuvre brune.
Ouais.
Tu sais, ça n'a aucune espèce de... On peut savoir les priorités aux bonnes places, s'il vous plaît, là.
Mais... On dirait que si tu me disais que c'était des gens de petits chinchillas poilus, tout cute, avec une petite face, ma réaction serait autre. C'est vraiment très, 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 très de base et très niaiseux. Mais on dirait qu'une gornouille puis des couleuvres, animaux qui ne me plaisent pas tant à la base, on dirait que juste ça, ça me fait comme... Je m'en fous un peu. Puis ça reste un animal, là. Mais si c'était une petite bobite poilue, j'aurais tendance... On dirait que j'aurais pas peint tout. Je te dirais, voyons, quand c'est donc bien cute. Mais c'est donc bien cute. Tu veux tuer ça, Jonathan? C'est donc bien cute. Tu veux pas tuer
non,
ça?
Non, mais Maud, moi, je suis capable de tracer la ligne. Là. Lorsque t'as une bobite ou une bête, un animal qui a... certains ont peut-être même en apparence, mais en tout cas... qui est capable d'avoir des sentiments, si on veut. Mettons le petit pitou, là.
Ouais.
Il est heureux, il est triste, il est content de te voir, il se colle, hein? Il se fait à la queue. Il y a, hein? T'sais, il y a comme, tu peux développer une relation avec un animal poilu, là. Avec une rainette faux grillon, t'sais, d'après moi, t'arrives de travailler. Mettons que t'as une rainette faux grillon dans un aquarium chez vous, un bocal, là, avec de l'eau, là. Mais t'arrives à la maison, elle n'est pas scotchée dans la vitre à faire. Elle va être contente que t'arrives, là. La couleuvre brune non plus. Elle se fait pas aller le bout de la... Non. C'est une couleuvre brune. OK? Le suceur...
Ben là, c'est la même affaire qu'un poisson rouge.
T'es pas en train de sucer le bord de l'aquarium quand t'arrives, parce qu'il est comme... Viens me flatter le dos du cuivré, là. Cela n'arrive pas. Alors que le chien, oui. T'sais, si on me disait c'est un troupeau... En tout cas. Je sais pas, il y a sûrement des gens qui me diraient que les rainettes faux grillons ont des sentiments. D'ailleurs, il y a eu une manifestation de rainettes faux grillons contre le développement à Candiac. Il y a toutes des petites pancartes, là.
Mm-hmm.
Ça manifestait avec la langue sur ses...
Puis t'étais pas là.
Bon, fait du bien quand même de parler de choses plus futiles.
Oui.
Moi, je trouve que ça fait du bien. Quand même, je vais faire...
Dans la vidéo, peut-être. On va fermer ça.
Hein? Quoi? Qu'est-ce qui copule?
C'est une vidéo de...
Qu'est-ce que Richard a laissé ouvert comme fenêtre, là?
C'était la vidéo des rainettes faux grillons, mais c'était comme... Il y avait un moment qui commençait à se passer, là.
Oh!
Oui, la reproduction. Oh.
Peut-être qu'il y a une notion de plaisir, finalement. Peut-être qu'ils sont... les rainettes ont des sentiments.
C'est pour survivre.
Bon, avant d'aller en pause, un peu plus sérieux, mais... ouais. Ça va être un peu sarcastique. Salutations aux louches. Ça faisait longtemps
encore?
Que je les avais pas salués. Ah non, mais je pète pas ma coche, là. Je fais juste les saluer bien bas parce que les louches nous disent que, dans le fond, et pas juste au Québec, un peu partout dans le monde, là, ils nous disent que, tu sais, c'est pas vrai la COVID, là. T'sais, c'est juste la grippe, ça meurt pas plus que d'habitude, c'est business as usual, puis, tu sais, dans le fond, il y a une personne qui avait le cancer... aux soins palliatifs, puis si elle décède de la COVID, ben c'était juste 4-5 jours de plus, de moins, en fait. Mais là, il y a quand même des statistiques, là. J'invite les louches à aller lire Catherine Lamontagne, notre excellente collègue au Journal de Québec, Journal de Montréal. Sûrement que les louches vont dire que tout ça, c'est de la frime, puis que ça vaut de la manipulation statistique, là, mais quand même. Le nombre total de décès au Québec, lorsqu'on fait une comparaison, sur une période de, quoi, un mois et demi, là, entre le 15 mars et le 25 avril, en 2019, il y avait eu 7930 décès. Ça, c'est toute catégorie, là. Le cancer, maladie du cœur, maladie vasculaire, suicide, les accidents, etc. 7930 décès en 2019, c'était une année qui était dans la moyenne. Et là, pour 2020, déjà, alors que peut-être qu'il y a des statistiques qui ne sont pas encore entrées, là, on comptabilise 9745 décès. C'est 1815 décès de plus qu'à pareille date l'an dernier pour la même période. C'est une augmentation, écoutez bien les louches, là. c'est une augmentation de 23%. Et là, vous allez encore nous dire que c'est de la frime, la COVID, que c'était n'importe quoi. La seule façon que votre discours pourrait simili tenir la route, là, même si je l'achèterais pas, parce que je trouve ça complètement ridicule de pas de se dire qu'une vie valait moins parce qu'il y avait une mort qui était prévisible à court, moyen terme. Là. La seule façon que vous pourriez avoir raison, ce serait que dans les prochains mois, on assiste à une baisse drastique du nombre de décès par rapport à ce qu'on avait dans les statistiques antérieurement. Mm-hmm. Parce que si vous dites que dans le fond, c'est juste des décès qui auraient eu lieu mais qui ont été accélérés, ça veut dire que dans les, pour les mêmes périodes, là, de, disons, là, quand on va arriver au mois de mai, juin, juillet, août, il devrait avoir une baisse de du même ordre, de, mettons, 15 à 20 % du nombre de décès. Parce que dans le fond, les gens auront juste décédé plus tôt. Je ne sais pas pourquoi, Maud, j'ai pas le feeling que ça va être ça.
Moi non plus.
J'ai pas le feeling. Et c'est un peu la même chose partout dans le monde. Alors, continuez de vous complaire dans vos débilités. Il demande la démission de Mario. Mario Dumont qui a été identifié comme étant la personnalité médiatique la plus appréciée. La plus appréciée. C'était quoi? C'est-tu la dernière décennie? Ouais, je pense que c'est ça, la dernière décennie.
Oui, puis de confiance, je crois.
Oui, personne de confiance. S'il y a quelqu'un à qui je fais confiance dans les médias, là, et c'est pas parce que j'aime pas tous mes autres collègues, mais c'est bien Mario Dumont. Là.
Ben, je pense qu'il y a pas mal de gens qui se disent aussi la même affaire.
Ouais,
que toi,
ouais.
Pis que moi.
Et bref, tu sais, s'il y a un élément duquel on peut se réjouir de la popularité de François Legault en cette période de pandémie, là, c'est de voir qu'il est tellement populaire qu'on se rend compte que les louches comptent pas pourtant que ça, finalement, au Québec. T'sais.
Ouais.
Tu sais, si, mettons, c'était 60% des gens qui appuyaient François Legault, mais que 40% qui pensent que François Legault a un plan machiavélique pour nous garder en confinement, pour nuire au Québec, à notre développement, etc., qu'il cache l'hydroxychloroquine, il garde ça juste pour lui parce qu'il veut pas que les autres soient guéris. T'sais. Là, je me dirais, ich, il y a vrai. Mais dans les faits, tu sais, j'ai l'autre fois qu'on a l'impression que ça se multiplie, les discours conspirationnistes. En même temps, tu feras l'exercice ou pas, parce que sincèrement, ça peut être assez futile, puis je veux pas que tu perdes trop de temps avec les conspirationnistes, mais mettons sur Twitter, là, tu vas suivre, tu vas, les gens qui répondent, tu vas regarder, mettons, le nombre de personnes qui y suivent. Il y en a beaucoup que c'est du 10, 20, 30 personnes. Tu sais, donc, ils ont pas un gros porte-voix. Je comprends qu'au final, il représente une certaine masse, là.
Ça circule.
Mais disons-nous que c'est peut-être pas tant que ça, finalement. Globalement, là, c'est peut-être pas tant que ça. Alors voilà. Mais je suis sûr que tout le monde va trouver des bonnes raisons là, de dire que ces chiffres-là ne valent pas de la chenoute. Alors voilà. On fait une première pause. Bougez pas et on revient.
Franchement dit. Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
1-877-827-2346.
Quelle histoire, hein, qui est choquante, qu'on a découvert dans les journaux ce matin. Une conseillère municipale de Saint-Jean-Richelieu, récemment nommée mairesse par intérim, parce qu'on a l'impression que c'est un peu le bordel, là, Saint-Jean-sur-Richelieu. L'actuelle maire, Alain Laplante, qui a été suspendue depuis le 6 mai pour une période de 95 jours, suite à une enquête en éthique et en déontologie menée par la Commission municipale du Québec. Donc là, la conseillère municipale, Claire Charbonneau, qui a été élue remplaçante, si on veut, mairesse par intérim, mais quelques 10 jours plus tard, elle démissionne parce qu'elle est victime d'intimidation et ne pouvait plus endurer ce phénomène-là. On va en discuter avec Mme Charbonneau qu'on rejoint au bout du fil. Mme Charbonneau, bonjour.
Bonjour.
Peut-être commencer par nous expliquer un peu le contexte. Bon, j'ai résumé très brièvement le maire qui a été suspendu. Dans quel contexte et comment vous vous êtes ramassé à devenir mairesse par intérim?
Ben, dans un conseil de ville, il y a toujours un maire suppléant, peu importe que le maire est en place ou non, parce que le maire, parfois, s'il s'absente, ben, c'est le maire suppléant qui prend sa place autant.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Aux réunions plénières, aux réunions publiques ou dans les événements ou quoi que ce soit. Moi, j'ai été nommée mairesse suppléante en décembre et puis j'ai été renommée aussi en février. Mon mandat finissait à fin mai. Donc, quand le maire est suspendu de cette façon, c'est le maire ou la mairesse suppléante qui prend le mandat de maire. Et là, quand M. Laplante a été suspendu pour 95 jours, qui est en passant la plus grosse suspension de la Commission municipale du Québec, je me suis retrouvée mairesse de la ville de Saint-Jean. Et c'est de toute façon, ça a toujours, on a toujours eu des commentaires désobligeants sur les réseaux sociaux. On est 12 conseillers plus le maire. 3 conseillers avec l'équipe Laplante, M. Laplante, 7 conseillers avec une équipe qui s'appelle l'équipe pour Saint-Jean, puis deux conseillers indépendants.
OK. Vous êtes dans l'équipe du maire ou vous êtes dans l'équipe pour Saint-Jean?
L'équipe pour Saint-Jean.
OK.
Et puis, quand moi, je me suis retrouvée maire, bien là, les réseaux sociaux en ont mis de plus belle, là. Même sur... ma vie personnelle. Là. C'est vraiment, excusez-moi l'expression, dégueulasse là, ce qu'ils écrivent. Là. Puis c'est toujours de plus belle. Là, parce que là, j'ai dénoncé ça la semaine passée. Là. Ça continue à rouler encore. Là, les cochonneries qui mettent sur Facebook que je vois pas tous, là, mais c'est fou. Là. C'est comme... c'est vraiment déplacé, là. Moi, je pensais que les réseaux sociaux, le Facebook, c'était pour dire des choses, mettre les gens au courant. Mais là, c'est rendu vraiment intimidant. Beaucoup d'harcèlement là-dessus, de l'intimidation, c'est pas croyable.
À un point tel, Mme Charbonneau, vous avez dit que ça vous empêchait de dormir la nuit, puis même vous aviez des craintes carrément là, pour votre intégrité physique.
Là. Oui. Il y a des choses qui ont été écrites, là. C'était vraiment déplacé. Je peux vous en dire une. Elle a passé oui. Dans le journal local, le Canada français, que le monsieur a dit « Le seul problème, c'est qu'elle respire. » Tu sais, ça veut dire qu'il veut-tu ma mort ou quoi, là? Tu sais, c'est grave, là. Il faut entendre moi, je suis comptable. Ils disent que je suis pas comptable, j'ai pas de diplôme, j'ai un quotient intellectuel faible. En tout cas, il y en a écrit là, que j'ai pas de cerveau, etc. Je peux vous en nommer d'autres, là, mais c'est les plus intimidantes, et il y en a d'autres encore plus intimidantes que je nommerai pas.
Est-ce que vous avez songé ou est-ce que vous avez fait plainte à la police?
Moi, ce que j'ai fait, c'est que ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, je les ai transférés à l'avocat de la ville de Saint-Jean. Et qui, elle, est en contact avec le chef de police. Fait que moi, je laisse ça dans leurs mains. Ce sont les instances qui connaissent ça, l'avocat pour le juridique, le chef de police qui va voir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Moi, je laisse ça entre leurs mains.
Qui sont ces gens-là, Mme Charbonneau? Est-ce que ce sont des partisans? Est-ce qu'ils sont dans l'équipe du maire puis ils veulent faire de la politique? Est-ce que c'est une petite poignée de citoyens? C'est des gens qui ont des revendications auprès de la ville? Est-ce que vous avez une idée de qui sont ces gens-là?
Ce sont des citoyens de M. Laplante, parce qu'à chaque fois qu'il venait, quand on avait des réunions publiques, il venait nous dénigrer aussi, nous traiter de toutes sortes de noms ou quoi que ce soit. Et puis, vous pouvez aller voir sur YouTube, les réunions de la ville de Saint-Jean sont filmées. Et puis, effectivement, c'est une petite poignée de personnes. Là. Il n'y en a pas, pas 500, là. Il y en a quelques-uns. Puis, c'est toujours les mêmes. Puis, ils se relancent l'un l'autre. Ils se répondent l'un l'autre. Puis, c'est qui démettrait le commentaire le plus désobligeant envers nous.
Et ils le font en personne, donc pas juste sur les médias sociaux, lors des séances du conseil aussi.
Oui, ils l'ont fait lors des séances du conseil et ce sont des partisans de Monsieur Laplante, Monsieur le maire. Fait que c'est certain que Monsieur le maire en a rien été suspendu. Les citoyens n'acceptent pas ça. D'ailleurs, Monsieur le maire non plus n'accepte pas ça. Là. Et de plus, aussi, ces personnes-là venaient en public nous dénigrer. Et aussi, il ne faut pas oublier qu'à Ville de Saint-Jean, il y a 3 employés qui ont porté plainte pour harcèlement psychologique contre le maire Laplante. Fait qu'il y a ces deux choses-là qui... et contre le maire Laplante, entre la suspension puis l'harcèlement psychologique de 3 employés de la ville de Saint-Jean. Et le tribunal administratif, ça va être jugé au tribunal administratif des normes du travail. Ils ont répondu que c'était vraiment, les personnes avaient été harcelées psychologiquement par M. le maire.
Ça me donne envie d'en savoir un peu plus, Mme Charbonneau, sur ce qui se cache derrière la suspension de 95 jours là, par la Commission municipale du Québec. On parle d'une enquête en éthique et en déontologie. Qu'est-ce qu'on reproche aux maires?
On reproche en gros aux maires d'avoir travaillé contre la ville. Il est premier magistrat de la ville de Saint-Jean. Il a travaillé contre la ville pour le bénéfice de ses amis, entre autres. Là, il y a plusieurs choses. Il y avait quand même une douzaine de chefs d'accusation qui ont été retenus. Là. Mais en gros, c'est qu'il a travaillé contre sa ville pour le bénéfice de ses amis.
Hmm. Est-ce que, à votre connaissance, Mme Charbonneau, le maire a déjà dénoncé les dérapages ou les tactiques employées par ces citoyens-là, qui soient par le biais des médias sociaux ou en personne au conseil municipal, tenaient des propos peu édifiants? Est-ce que vous avez l'impression qu'il laisse aller ça? Est-ce qu'il l'encourage? Est-ce qu'il l'a déjà dénoncé? Comment il se gouverne par rapport à ça?
Il l'a jamais dénoncé. D'ailleurs, on a un règlement à la ville de Saint-Jean qui empêche les gens de faire ça, mais monsieur le maire les laisse aller. Fait que on s'entend que nous, on n'a pas de pouvoir. C'est lui qui est le président de l'Assemblée, là. Fait qu'il les écoute. Oui, continuez. Puis si les gens reviennent une deuxième fois, oui, allez-y, monsieur tel, madame tel, allez-y, go, continuez. Puis ils font toujours des préambules parce que c'est supposé être une période de questions. Puis des fois, à la fin, il y a une petite question, mais il y a toujours des gros préambules aussi, là.
Hmm. Bon, il y a les commentaires sur les médias sociaux, il y a les commentaires au conseil de ville. Dans votre vie de tous les jours, là, lorsque vous vous promenez dans les rues, lorsque vous, je vais le dire au passé parce que en période de pandémie, nos déplacements sont limités, mais oui. Lorsque vous alliez au restaurant, dans un centre d'achat, est-ce que vous êtes déjà fait apostropher? Parce que, tu sais, bon, moi, en étant quelqu'un qui donne son opinion dans les médias, là, on voit souvent que les gens sont très, très braves sur les médias sociaux, mais dans la rue, il n'y a pas personne qui ose nous envoyer promener. Est-ce que c'est déjà arrivé? Est-ce que vous avez déjà carrément craint à votre pour votre sécurité là, dans vos déplacements quotidiens?
Oui, ça m'est arrivé une fois que quelqu'un est venu m'intimider dans un restaurant.
Il vous a dit quoi?
Ben, je ne vais pas dans les détails, ben, c'est parce qu'il y a des choses aussi. Il m'a dit bonsoir, Madame Charbonneau. Et il m'a parlé de. Parce que moi, j'avais posé une question à l'hôtel de ville à un certain moment donné au monsieur le maire qui ne m'a jamais répondu. J'avais posé une question sur une personne. Et puis, il est venu essayer de m'intimider sur cette personne-là.
Je vais me faire l'avocat du diable pendant un instant, Mme Charbonneau, parce que je suis certain qu'il y a des gens qui se disent bon, ben en même temps, là, tu sais, la politique, c'est pas certains vont dire c'est pas pour les doux, là, il y a de la partisanerie, on est exposé publiquement, ça vient avec son lot de critiques et tout ça. Certains vont dire ça prend quand même la couenne dure pour faire de la politique. Vous répondez quoi à ces gens-là?
Ben, je vais vous dire, c'est mon deuxième mandat. Le premier mandat, oui, il y en a du monde qui vont nous critiquer ou quoi que ce soit, là. Mais jamais comme présentement. Là. C'est vraiment du harcèlement et de l'intimidation. Là. C'est du harcèlement physique, psychologique. Quand les gens te traitent, ils vont dans ta vie personnelle là, sans savoir de quoi ils parlent. Là. Je m'excuse, là, ça se fait pas. Okay? Puis avant la ville de Saint-Jean, OK, c'est pas tout le monde qui a la même opinion. Tu peux exprimer ton opinion sans dénigrer le monde puis les traiter de toutes sortes de cochonneries comme qu'ils font sur les réseaux présentement. Puis c'est tout fait, puis ils s'entretiennent les uns les autres. Puis monsieur le maire en public, je m'excuse, là, il les encourage. C'est mon opinion.
Là, ce matin, bon, il y a cet article-là dans les journaux. Là, nous, on se parle. Est-ce que dans les dernières heures, vous avez eu l'impression que ça se calmait? Est-ce que le fait d'être exposé, ces gens-là, vous pensez que ça va les ramener un peu à la raison ou vous avez encore des messages du même type?
J'ai encore des messages, puis. Je pensais que c'était pour se calmer, mais j'ai encore des messages. Je pense que là, les messages vont pas que j'ai été mère suppléante ou quoi que ce soit. Les messages vont le fait que je suis en train de dénoncer de l'intimidation et du harcèlement sur les réseaux sociaux et quand les personnes viennent en vrai aussi. Je pense que ces personnes-là, là, ils réalisent pas ce qu'ils font puis ils réalisent pas le mal qu'ils font. Mais je pense qu'il faut que ça soit dénoncé parce que il y a pas juste moi qui vis ça. Il y en a d'autres aussi dans mon groupe qui vivent ça aussi. Puis il y en a d'autres dans d'autres villes, je suis certaine, là. Puis qu'en plus, il y a 3 employés de la ville de Saint-Jean qui ont subi du harcèlement psychologique de la part du maire, là. C'est inacceptable, ça. En 2020, on ne peut pas tolérer ça.
On vous sent, Mme Charbonneau, corrigez-moi si je me trompe, mais on sent que c'est pas juste un ras-le-bol là, ou une lassitude. Il y a quelque chose qui vous ébranle, qui vient vraiment vous toucher là-dedans.
Oui, parce qu'il m'attaque personnellement. Là, OK? C'est pas dire, bon, la conseillère du district numéro 11, elle fait pas sa job, c'est plein de tout dans son secteur. C'est sale, c'est ça. C'est pas juste ça. Là. Il m'attaque personnellement. T'sais? Moi, j'ai une famille aussi. Là, j'ai un mari, j'ai 3 enfants. Par chance, mes enfants vivent pas à Saint-Jean, là. Mais tu sais, j'ai de la famille, j'ai des cousins, des tantes, j'ai plein de familles, là. Mais c'est pas plaisant pour eux autres non plus d'entendre ça, là.
Et ça, Mme Charbonneau, c'est au moment, une époque où on cherche des gens pour combler des postes. Combien de conseillers de maire sont élus par acclamation, qui n'ont aucune opposition parce que les gens, justement, veulent pas ou n'ont pas le temps de s'impliquer dans la vie municipale. Là, vous le faites. La façon que les gens ont de vous remercier, c'est de vous décourager comme ça. Ça ne doit pas vous donner l'envie de vous représenter pour un troisième mandat, là?
Non, je vais me présenter pour un troisième mandat. Puis, effectivement, ça décourage les gens de se présenter en politique municipale, fédérale, provinciale, là, tu sais, à tous les niveaux. Puis c'est de plus en plus difficile de trouver des bons candidats qui veulent travailler pour les villes ou la province de Québec ou le Canada aussi, le pays du Canada. Mais il y a des gens de beaux calibres qu'on peut pas aller chercher à cause que c'est de plus en plus difficile. On se fait harceler vraiment, là. On le voit que ça va être difficile d'aller chercher les candidats pour 2021, là.
Mais Claire Charbonneau, donc, vous êtes conseillère municipale pour la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous faites bien de dénoncer. On va espérer que ça va calmer les ardeurs des gens, puis espérons également que la police sera aux aguets, là, s'il y a des messages qui vont trop loin, qu'on n'hésite pas à aller cogner à la porte de ces gens-là, leur rappeler un peu... c'est quoi le bien-vivre, là? Et qu'est-ce qui est acceptable et qu'est-ce qui ne l'est pas. Madame Charbonneau, merci, bonne chance pour la suite.
Merci beaucoup, bonne journée.
Merci, au revoir.
Franchement dit,
Jonathan Trudeau
et Maude Boutet. Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
1877-827-2346. Cube Radio.
On va parler de politique américaine avec notre collègue Luc Laliberté. Salut Luc!
Oui, salut Jonathan.
Donald Trump qui a fait jaser hier en allant visiter l'usine de Ford, et je sais que Mario Dumont, Benoît Dutrisac en ont parlé ce matin. C'est quand même particulier cet entêtement-là du président américain à ne pas vouloir donner l'exemple, à ne pas vouloir être vu en public portant le masque. Je comprends, là. T'sais, j'ai travaillé pour un premier ministre, leurs images, c'est important. Mais en même temps, là, on veut inciter les gens à se protéger, mais le président lui-même n'ose pas le faire parce que ça a l'air fou. C'est un drôle de message quand même, là.
Puis, ben écoute, ça, on en parle quand on analyse la politique de façon plus traditionnelle ou dans un contexte, entre guillemets, normal. J'insiste sur les guillemets. Le président Trump, on le sait depuis le départ, s'il y a une chose qui est claire, il ne gouverne pas pour l'ensemble des Américains. Il gouverne pour sa base. Il gouverne pour ses partisans. Et hier, moi, j'ai analysé ou interprété l'épisode du masque comme faisant partie d'un tout. Hier, au Wisconsin, ce à quoi on a eu droit, c'est ce à quoi on va avoir droit pendant l'essentiel de la campagne électorale d'ici au 3 novembre. Son comportement au Michigan, c'était carrément « voici ce que j'ai à vous proposer pour les prochains mois, puis éventuellement pour un deuxième mandat ». Et tu vois, l'idée du masque, c'est un message qu'il envoie en même temps à cette base-là et à ses partisans, puis à certains États républicains qui disent « ben écoutez, oui, le virus est là, mais finalement, on est capable de s'en sortir ». Puis il y a un certain nombre d'arguments qui justifient qu'il est peut-être pas si grave que ça, le fameux virus. Pas assez, en tout cas, pour qu'on ferme l'économie au complet. Et hier, c'était impressionnant parce qu'il a accepté de le porter dans une visite plus limitée, dans une visite privée, mais on a vu le contraste à partir du moment où il rencontre les gens, ou en tout cas où il sait que ça peut être filmé puis que ses propos vont être rapportés. Mais grosso modo, ce qu'il a dit hier au Michigan, c'est « peu importe la situation actuelle, j'ai fait mes preuves, le meilleur pour rétablir l'économie, c'est moi ». Et c'est un argument qui se défend. Il y en a beaucoup qui disent « ben écoutez, le président Trump, s'il n'est pas responsable de tout, il n'a rien gâché, en tout cas pendant 3 ans. Jusqu'à la COVID, l'économie américaine se portait bien, des taux de chômage historiquement bas, faibles. Donc, il dit, écoutez, c'est moi le meilleur pour l'économie. Puis ensuite, le message, il se divise vraiment en deux grands axes. D'un côté, on ne doit pas priver un travailleur américain ou un propriétaire d'entreprise de ses revenus. Donc, il faut tout faire pour que ces gens-là puissent sortir, puis être en mesure d'aller gagner leur pitance. Et de l'autre, et là, ben, on reconnaît encore le message à la base ou à une partie de son électorat, il ne faut pas léser les croyants. Donc, lui, il dit, écoutez, les gens qui pratiquent, les gens qui veulent se rendre à l'Église, qui veulent se regrouper, moi, je pense qu'on ne fait pas attention suffisamment à eux depuis le début de cet épisode-là. Alors, il fait fi, bien entendu, encore une fois, de ce qu'on a entendu du côté des autorités de la santé publique. La CDC, ou les CDC, les Center for Disease Control, ont même reconnu une erreur hier dans laquelle on pourrait même sous-estimer le nombre de cas selon les parce qu'il y a deux types de tests qu'on utilise. Alors, selon le type utilisé, ben on compilerait pas toutes les données. Donc, il y a de fortes chances que la situation sur le terrain soit pire. Et au moment où on déconfine, ben, on dit la CDC fait une grave erreur. C'est quelque chose qu'on n'aurait pas dû commettre. Donc, on a encore des cas. On approche les 100 000 décès. On a passé le cap du million de cas de personnes infectées. On s'attend à ce jusqu'au mois de juin, en tout cas, ça continue d'augmenter. Mais hier, clairement, le président est en campagne électorale, puis c'est pas anodin. Il était au Michigan hier. Et le Michigan, ben, c'est un des 4-5, on en a discuté souvent, hein, tous les deux, c'est un des 4-5 États pivots, un des 4-5 États qui vont faire la différence le 3 novembre.
Et pendant ce temps-là, il y a la revue médicale de Lancet qui est quand même, c'est pas n'importe qui là, c'est une revue qui est appréciée, qui est reconnue, qui a développé dévoilé les résultats d'une étude soutenue sur l'utilisation de l'hydroxychloroquine et de la chloroquine, qui non seulement ne démontrerait pas l'efficacité, mais qui dirait que dans une certaine proportion, les gens étaient plus à risque de mourir ou de développer des complications, faire de l'arythmie, etc. Pendant que le président, lui, dit « Moi, j'en prends tous les jours pour être sûr que c'est correct comme la vitamine C. »
Alors, tu vois, hier, il a précisé qu'il lui resterait 2 jours. Je ne sais pas comment on détermine la durée du traitement dans son cas, mais en entrevue, il a dit d'ici, parce qu'on l'a interrogé, on lui a demandé pendant combien de temps vous allez prendre ça, M. Trump. Puis il a dit « Oh, faut que je vérifie, là, je pense que j'en ai encore. »
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Pour 2 ou 3 jours. Donc, bien sûr, le président Trump, on le sait, on pourrait en discuter en long et en large, mais l'essentiel a été dit. C'était pas, je pense, des propos responsables de la part d'un meneur que d'encourager la consommation de chloroquine. Et ce que cette étude-là fait, c'est qu'elle confirme les résultats, parce qu'elles sont de qualité différente, les études qu'on a fait sur le médicament, mais ça vient confirmer ce qu'on dit depuis le début. En médecine, pas en science, on évite de poser un geste quand on pense que ce geste-là peut être plus grave, finalement, que la situation dans laquelle on se trouve. Et le fameux médicament, dans un contexte de COVID, il n'y a pas d'effet démontré jusqu'à maintenant, mais on connaît les effets secondaires potentiels depuis le début. En ça, on l'a répété bien souvent, ce n'est pas un nouveau médicament. Donc, en fait, ce que The Lancet diffuse, c'est grosso modo une confirmation de ce que disait Anthony Fauci, de ce que dit Deborah Birx, de ce qu'ont dit les experts en santé publique aux États-Unis depuis le début.
Parle-moi maintenant du traité ciel ouvert, les États-Unis qui se retirent de ce traité-là. De quoi on parle juste?
Voilà, donc ça c'est intéressant aussi parce que pendant qu'on se préoccupe de la COVID, puis avec raison, hein, ça, puis qu'il y a une récupération politique aussi des enjeux, ben pendant qu'on fait ça, le monde continue de tourner, d'évoluer, puis ben il y a parfois des signaux qui sont inquiétants, ou des décisions qui sont prises auxquelles on n'accorde pas toujours suffisamment d'importance. Le traité ciel ouvert, c'est un traité qui a été officialisé en 2002, mais l'idée derrière ça, ce traité-là, écoute, ça remonte, c'est aussi vieux que la Deuxième Guerre mondiale. On a commencé en parler. Dès les 1955, Dwight Eisenhower, le président américain, proposait quelque chose qui ressemble à ça. Grosso modo, ce sont des vols. Hein, donc, on parle d'une surveillance aérienne entre pays, bien sûr avec des avions qui ne sont pas armés. Mais on donne accès à notre ciel pour faire de l'observation. Et c'est comme ça qu'on est en mesure de constater ce qui se passe un peu partout dans les zones ou dans les pays qui ont accepté de signer ce traité-là. Donc, on peut aller chercher de l'information de première main, des observations, entre autres installations militaires qui se retrouvent dans les... Ils sont 35 pays à faire partie de ce traité-là, dont le Canada. Donc, le traité est entré en vigueur en 2002, le jour où la Russie a accepté d'intégrer les rangs de ce traité-là. Ce que le président Trump a affirmé hier, c'est que les États-Unis se retirent de ce traité-là parce que la Russie triche avec les règles du jeu bien souvent. Les Américains ne sont pas les premiers, c'est pas le premier pays à dire, hein, la Russie ne joue pas franc jeu là-dedans. Si on peut comprendre l'argument du président Trump, il faut quand même sous-peser la décision. Est-ce que pour bien montrer à la Russie qu'on ne se laissera pas rouler dans la farine, est-ce qu'il faut se retirer de ce traité-là et perdre l'information dont on jouit, dont on bénéficie en raison du traité? C'est là où il y a beaucoup d'experts qui ont réagi vigoureusement. Et je ne parle pas d'opposants démocrates. Là. Moi, hier, j'ai relevé parmi les déclarations les plus spectaculaires, il y avait celle de l'ancien directeur de la CIA, qui est Michael Hayden. Et Michael Hayden a travaillé, il a été nommé, puis il a travaillé pour l'administration Bush. Donc, c'est pas un Obama ou un Clinton. Là. Et lui a dit, c'est de la pure folie. Et il y a deux intérêts là-dedans. Ce que M. Hayden dit, si je résume son propos, son argumentaire, dans un premier temps, il dit, les États-Unis se privent de renseignements, et c'est pas vrai, comme le dit le président, que les satellites à eux seuls peuvent, en 2020, faire le travail. Il y a encore de l'information de première main qu'on va chercher grâce à la surveillance aérienne. De l'autre, non seulement les Américains se privent de renseignements, mais il dit on perd aussi de l'information qui peut servir à nos alliés. Donc, il y a beaucoup de pays avec lesquels les Américains collaborent parmi les 34 autres partenaires du traité. M. Hayden disait, par exemple, regardez ce qui s'est passé en Ukraine, regardez ce qui s'est passé en Crimée et qui impliquait encore une fois la Russie. Et il dit, on a profité des vols d'observation pour aller chercher de l'information ou pour aller en confirmer de l'information. Ben, il dit, quel message envoie-t-on maintenant à nos alliés si on n'est plus capable, grâce à ces vols d'observation, pour lesquels nous, on fournissait des renseignements aux alliés, si on n'est plus capable de le faire, quel message envoie-t-on à nos alliés? Donc, M. Trump, lui, ce qu'il dit, l'argumentaire de l'autre côté, ben écoutez, on sort de là parce que la Russie joue pas franc jeu, puis ben si on sort, ça va forcer les Russes à revenir autour de la table. Donc, c'est un pari, moi, hier, j'ai écrit un petit peu là-dessus, ce que je disais, c'est que c'est un pari qui est très, très risqué. Miser sur la bonne foi ou la collaboration des Russes en tentant un jeu comme celui-là, ça me paraissait risqué, compte tenu de ce qu'on perd dans le traité. Mais il y a personne là-dedans qui veut sauver la réputation de la Russie. Là, je ne suis pas un ardent défenseur de M. Poutine, même si je reconnais son génie politique, mais le pari est très risqué. On se prive effectivement de renseignements sensibles très importants.
Dans un tout autre ordre d'idée, Luc, on dit souvent que bon, l'expérience en politique, c'est une bonne chose, mais qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expérience, ça veut quand même dire qu'on peut retourner dans notre passé pour identifier notamment certaines contradictions. Et Joe Biden, il est confronté à ça en ce moment.
Voilà, c'est une ancienne conseillère à Wall Street, une analyste financière qui témoigne maintenant ou qui commente l'actualité économique aux États-Unis, qui a dit, écoutez, les démocrates, là, ils aimeraient bien, puis j'en parlais moi ce matin, puis je voulais y revenir avec toi, parce que on est au tout début de la campagne. Là. On va commencer bientôt à se rouler dans la boue, puis à rouler des mécaniques, à jouer les gros bras, si M. Biden tombe dans le panneau, bien entendu. Mais elle dit, écoutez, vous voulez faire, les démocrates, un référendum autour du président Trump en 2020, on remet en question souvent sa parole, son comportement, ses qualifications, on trouve qui ment ou qui déforme. N'oubliez pas qu'avec Joe Biden, vous avez aussi affaire à un menteur pathologique. Et elle se livre à une charge à fond de train qui, il faut bien le reconnaître, n'est pas dénuée de fondement. L'histoire de M. Biden, elle est marquée par un certain nombre de controverses, des propos, des exploits qu'il a exagérés, des histoires qu'il a inventées, puis des cas de plagiat. La première fois, par exemple, et ça c'est documenté, la première fois où Joe Biden se lance en politique, 1987-88, pour la présidentielle, première fois où il souhaite devenir le candidat démocrate, ben, il doit se retirer à la suite d'une controverse. Il a copié littéralement le discours d'un politicien britannique, allant jusqu'à s'approprier l'héritage familial de ce politicien-là, donc en disant, ma famille, c'est une famille de mineurs, ils sont descendus dans le trou. Non, ils n'ont jamais été mineurs, les Biden. Donc, elle dit, regardez l'ensemble du portrait de M. Biden, puis ramenez ça autour de Tara Reid, le fameux dossier d'allégation d'agression sexuelle contre Joe Biden qui défrait la nouvelle ces jours-ci. Puis on dit, ben écoutez, à menteur, menteur et demi, là, oubliez pas, vous avez aussi affaire à quelqu'un qui est responsable de plagiat et de mensonge. Est-ce qu'on fera la nuance entre les deux hommes? Probablement que M. Biden a l'air un peu plus sympathique. Hein, il est toujours souriant, M. Biden, il manque pas une occasion de s'afficher affiché avec un grand sourire puis ses lunettes. Mais effectivement, tu le disais bien, il a quand même un très, très long passé en politique et énormément de déclarations qu'on peut ramener contre lui. Puis dans un contexte de campagne électorale, on s'embarrassera pas de la nuance. On va dire, ben c'est menteur pour menteur. Ils sont tous les mêmes. Allez maintenant vers Donald Trump parce qu'au plan économique, c'est lui qui a la solution.
On le voit de plus en plus. Hein. Dans les prochaines semaines, la pandémie, oui, ça va rester un sujet évidemment très important, mais la campagne électorale, qui plus le temps va passer, plus elle va s'installer, notamment Joe Biden, qui va être confronté à son passé. Ben, merci, Luc. Je te souhaite un excellent week-end et on se reparle en début de semaine prochaine.
Bonne fin de semaine à tout le monde. Bye.
Salut.
Vous écoutez
Franchement dit.
Et on va parler politique avec ma collègue Emmanuel Latraverse. Salut, Emmanuel.
Bonjour.
Justin Trudeau, qui est en conférence de presse au moment où on se parle, il a devancé son point de presse quotidien. Il débutait à 10h30 aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il avait à nous dire, le premier ministre?
Ben, c'est intéressant. On sait que les premiers ministres ont une rencontre à Ottawa et toutes les provinces à toutes les semaines. Imagine que dans les cercles à Ottawa, on appelle ça « date night with the premiers ».
J'adore.
Donc, et ça, c'est le jeudi. Et ce qui émerge de ça, le gros sujet de discussion, puis c'est assez intéressant, c'est que pour effectuer un retour à la normale, il faut trouver une façon d'accélérer non seulement la capacité de dépistage, mais surtout et avant tout, le corollaire de ça, c'est la capacité de retraçage. Hein? Et ça, ce qui veut dire que pour chaque cas positif qu'on trouve, il faut être capable pendant de 24 à 48 heures de retracer tous les contacts de cette personne-là depuis les 10 ou 14 derniers jours. Alors, on s'entend que c'est un effort monumental et c'est ce qu'on appelle des enquêtes épidémiologiques et c'est un des écueils là en termes de volume auquel on est confronté. Et Ottawa vient donc de confirmer, de mettre sur la place publique là, son offre là, aux provinces, qui est non seulement d'aider à financer le matériel pour faire le dépistage, mais surtout de mettre à disposition des provinces, des experts et des gens de Statistique Canada, de différents ministères qui sont capables de faire les appels et donc de faire jusqu'à 3600 appels 7 jours sur 7 et de faire jusqu'à, il y a 1700 intervieweurs qui sont disponibles pour faire 20 000 appels par jour au total, pour aider là, à augmenter la cadence. Et surtout, le but, c'est de mettre en place un mécanisme de partage des données. Parce qu'en ce moment, les gens sortent pas de leur province. Mais si on veut un retour à la normale, entre guillemets, il faut commencer à mettre en place un système pour que les provinces partagent ces données-là. Et donc, c'est le cœur en ce moment. C'est la prochaine étape là, essentielle pour sortir de notre état de pause généralisée actuelle, mais aussi, objectivement, pour se donner les moyens d'affronter de manière peut-être plus efficace une deuxième vague.
Dans un autre ordre d'idée, Emmanuel, le dossier d'Air Canada, là, ça commence à être une épine au pied du premier ministre Trudeau, et ça le caractérise un peu. Hein, il y a des décisions qui sont plus faciles que d'autres à prendre, là, d'être généreux, de mettre sur pied des programmes, de donner des milliards. Ça, c'est plus facile que de trancher dans des dossiers qui sont beaucoup plus sensibles, beaucoup plus litigieux. Et là, cette question-là de l'aide qu'on pourrait accorder à Air Canada en fonction d'un remboursement des billets d'avion, les gens qui ont obtenu des crédits et qui exigent d'avoir des remboursements. C'est difficile d'avoir l'heure juste du côté du premier ministre sur ses intentions dans ce dossier-là. En fait, on se demande si lui-même le sait ce qu'il va faire.
Ben, c'est pas très clair qu'Ottawa sait ce qu'il va faire pour une raison très simple. C'est qu'Ottawa cherche à trouver un équilibre entre assurer aux compagnies aériennes les moyens de survivre à cette crise et être juste et équitable envers les Canadiens. La réalité, c'est que les Canadiens... La raison pour laquelle ça ne satisfait pas l'idée d'avoir un crédit, c'est que c'est maintenant que les gens ont besoin de liquidité. Et donc, le 1000, 2000 $ qui dort dans les coffres d'Air Canada, les gens en ont besoin maintenant. En même temps, le calcul d'Air Canada, c'est de dire que ça va prendre 3 ans avant de pouvoir revenir à la normale d'avant la crise. Et donc, le 6 milliards de liquidité, il faut qu'il dure pour une très, très, très longue période. Si on veut passer au travers. Et il y a d'autres compagnies aériennes au Canada qui sont dans des situations beaucoup plus précaires qu'Air Canada. Alors, c'est vraiment un casse-tête pour le gouvernement en ce moment qui achète du temps en évitant de se mouiller et en préférant dire qu'on cherche un juste équilibre.
Absolument. Je sais que le temps presse et que tu dois retourner en onde à LCN sous peu, mais peut-être un mot sur ce qui se passe au Québec, notamment sur le fait que les pédiatres sont en train de forcer une discussion plutôt délicate sur les limites de ce qu'on peut appeler le risque zéro, là.
Oui, et c'est intéressant que ce soit les pédiatres qui l'ont lancé parce qu'ils étaient comme protégés là, des foudres de la population en invoquant la protection des enfants. Mm-hmm. Mais on s'est placé dans un mode risque zéro avec le confinement. Et là, maintenant, on se rend compte que, bon, de un, pour les enfants, ça fonctionne pas du tout. Ça rend le retour à l'école un peu dysfonctionnel. Les camps de jour, absolument impraticables. Et il y a des sérieux doutes là qui sont... on en a largement parlé des sérieux doutes qui sont évoqués pour la santé mentale des jeunes, des adolescents, leur équilibre, ouais, leur développement social, etc. Mais objectivement, moi, je pense que de plus en plus, cette logique-là qu'il faut revoir, adapter les consignes de la santé publique à une réalité fonctionnelle, ce discours-là va migrer maintenant, je pense, vers les enjeux économiques et sociaux. Parce que on ne pourra pas sauver l'économie, reprendre un rythme normal si on n'est pas capable de s'adapter à cette réalité-là et à gérer un certain risque. Maintenant, le défi pour le gouvernement, c'est d'être capable de mettre en place les structures de dépistage. C'est pour ça que c'est si important, pour être capable de gérer le fait qu'on n'est plus dans le risque zéro. Et pour pouvoir gérer un risque qui vient avec un retour à une forme de normalité, la distanciation, le masque, etc., il faut que le gouvernement soit capable de répondre. Et en ce moment, c'est ça qui manque. C'est cette capacité de dépistage à grande échelle, d'où le fait, pour revenir à ce qu'on disait au début, que Ottawa essaie de forcer un peu la main là-dessus et augmenter le rythme de dépistage un peu partout au pays, parce que c'est la clé de voûte essentielle. On l'a vu dans les pays qui ont réussi à minimiser les impacts de cette crise-là. Mais c'est toute une pédagogie maintenant là, qu'il faut faire ouais, au sein de la population. Puis moi, je trouve ça magnifique que c'est grâce un peu aux pédiatres qu'on est en train, très timidement, d'avoir cette discussion-là plus largement dans la société.
Absolument. Mais on le voit dans le discours de la santé publique qu'à un moment donné, bon, cette prise de conscience que le risque zéro n'existe pas et que il arrive un moment où t'as pas le choix d'agir, de déconfiner parce que de toute façon, les gens vont commencer à décrocher en même temps. On se questionne sur le fait où on peut être préoccupé du fait que le premier ministre dit ben, en ce moment, on n'est pas prêt pour une deuxième vague. Là. Au moment où on est vraiment en train d'ouvrir les vannes, on nous confirme qu'on n'est pas prêt pour une deuxième vague. Bref, hâte de voir comment ça va se dérouler, notamment la semaine prochaine avec le déconfinement graduel de la ville de Montréal. Emmanuel, je te souhaite un excellent week-end et on se reparle au début de la semaine.
Merci.
Merci, salut. Et parlant du premier ministre Legault, il reprend le terrain ce matin. Je trouve absolument intéressant parce que, bon, il nous a habitué de ne pas être de tous les points de presse. D'ailleurs, encore une fois, aujourd'hui, c'est Geneviève Guilbeault, la vice-première ministre, exact, qui va faire le point de presse. Mais on a quand même, de façon générale, isolé le premier ministre. Et là, il a repris un peu le terrain ce matin d'une façon assez originale. Ouais, voilà, on va en discuter avec notre collègue de TVA Nouvelle, Marianne Lapierre, qu'on rejoint au bout du fil. Salut, Marianne.
Salut, Jonathan. Salut, Maude.
Alors, Marianne, on a vu qu'hier, le premier ministre arborait un masque à l'effigie du Canadien de Montréal. C'est le capitaine du CH Shea Weber qui lui avait fait parvenir. Et là, on a continué dans la même lignée là, en s'associant au Canadien aujourd'hui.
Qui n'était pas rancunier chez Weber et qui lui avait donc fait parvenir ce masque, qui était annonciateur finalement de ce qui allait se passer ce matin, alors que vers 8h30, on était sur place, métro Cadillac, le premier ministre Legault qui a participé à une activité de distribution de masques qui était en compagnie du docteur Arruda, de sa ministre responsable de la métropole Chantal Rouleau, Marc Bergevin également, DG du Canadien, qui était sur place, ainsi que Jonathan Drouin, jeune joueur de 25 ans, très talentueux du Canadien de Montréal. Et on parle souvent de bain de foule, hein, habituellement dans des circonstances comme ça. Là, c'est plus gênant de le faire alors qu'il y a une distanciation de 2 mètres qui devrait, en principe, ben oui, être respectée. Mais je vous dirais qu'à un certain moment, Jonathan, il y avait pas mal de monde là. C'était un coin de rue et de la façon que c'était configuré, ça faisait en sorte que c'était un peu difficile de respecter le 2 mètres à tel point que le docteur Arruda s'est grimpé sur une espèce de banc en béton là autour du métro et qu'il a demandé aux gens en disant « Ohé, ohé, écoutez-moi, là, vous allez devoir vous distancier. Wow. Faites attention de ne pas vous faire frapper dans la rue, là, mais il faut se distancer, faut respecter le 2 mètres. » Mais évidemment que c'était une foule assez conquise. On le voit dans les sondages, mais clairement une foule conquise qui voulait voir son premier ministre, qui voulait voir, évidemment, un joueur du Canadien, qui voulait un masque aussi dans certains cas et qui s'approchait de son premier ministre aussi pour dire ben oui. « Bon, tel est mon problème, je vous remercie » et tout ça. Et avec le masque, on entend mal, donc on s'approche pour comprendre mieux. Donc, bref, à un certain moment, j'ai l'impression que les gens des communications là se grattaient un petit peu la tête. Mais bon, ça s'est fait, là, tout ça, évidemment, dans l'ordre, aucun problème. Il y avait des masques à distribuer, une certaine quantité qui sortait un peu en exclusivité, là, les masques réutilisables qui vont être distribués à compter de lundi. On parle de quoi? 300 000 dans une première vague, en tout 1,5 million dans les transports en commun du Grand Montréal. Donc déjà, on avait sorti ces masques-là. Il y avait également des masques du Canadien qui étaient très convoités. Il y a un monsieur dans la foule, Jonathan, je l'ai entendu dire, ben, le Canadien, parce que des masques lavables, les Canadiens sont habitués de se faire laver. Donc, ça donne un lieu quand même à des anecdotes assez drôles, je vous dirais. Alors que il y a une dame aussi qui a apporté des fleurs au premier ministre, elle les fleurissait elle-même et vraiment on sentait que les gens étaient contents de le voir, contents de pouvoir lui parler là un temps soit peu. Et ça a donné lieu aussi à une anecdote assez drôle. Vous allez entendre d'ailleurs un extrait parce que hier, le premier ministre il est allé d'une boutade concernant le défilé de la Coupe Stanley sur lequel il n'avait pas besoin de travailler. Il en a remis, je vous dirais, ce matin en posant des questions justement sur l'avenir du tricolore en prenant un témoin, Marc Bergevin, qui était juste à côté de lui. Je m'invite à entendre ce que ça a donné.
Pour moi, il y a deux scénarios. On vise la Coupe Stanley à court terme, puis on garde Weber puis Price. Où on vise la Coupe Stanley à moyen terme, puis on les échange pour des plus jeunes. Fait que, c'est quoi votre choix? Bonjour, Jonathan. Vous pouvez venir, mais je ne sais pas si vous avez un mot à dire. Non, mais je vais répéter ma question. Pour moi, il y a deux...
Je vais y aller, moi.
Ouais. C'est très, très bon. Et le premier ministre du Québec qui fait le gérant d'estrade avec le DG du Canadien et qui dit « tu aurais peut-être échangé un tel ou un tel », ça devait être assez drôle.
Et c'est drôle parce que, rappelez-vous, on avait dit qu'on voulait pas de gérant d'estrade justement sur ce qui se passait.
Oui.
Il était dit dans un point de presse il n'y a pas si longtemps, mais bon, là, on s'entend qu'on est sur un autre type de sujet. Bref, ça s'est terminé, cette visite en sol montréalais. Alors, bon, je me trouve encore, on est dans Hochelaga-Maisonneuve. C'est une coopérative, la coopérative couturière Pop. Il y avait la mairesse également de Montréal, Valérie Plante, qui était présente. Donc, le premier ministre qui voulait finalement venir donner une tape dans le dos à 2 mètres de distance, mais encourager. Donc, ces couturières, elles sont assez nombreuses. On dirait qu'il y a même des couturières du Cirque du Soleil qui travaillent donc à cet effort-là. Alors qu'ici, là, seulement, cette coop, là, on gère entre 40 000 et 50 000 masques qui sont fabriqués à chaque semaine. Donc, vraiment, un travail là, qui est énorme. Et le premier ministre qui a donc voulu venir les saluer.
En terminant, Marianne, dernière question pour toi. Est-ce que tu as senti qu'il y avait davantage d'engouement envers le premier ministre qu'envers Marc Bergevin et Jonathan Drouin? Parce que, tu sais, dans une époque vraiment pas si lointaine, tu mets un premier ministre à côté d'un joueur vedette des Canadiens, le monde se serait pitché ce joueur des Canadiens. Là, j'ai le sentiment que ça doit être beaucoup plus partagé, là.
Ben, c'était pas mal partagé, à tel point que lorsqu'il est parti, le premier ministre, il a eu droit à des grands applaudissements et tout ça, là, de la part de monsieur, madame, tout le monde. Là, on n'est pas dans une assemblée partisane, là, on est au coin de la rue, métro Cadillac à 8h30 du matin et les gens qui applaudissent, vraiment, là, c'est manifeste dans les sondages, mais on le sent, là, les gens l'appuient. Quand on est rendu, qu'on apporte des fleurs au premier ministre et qu'on vient, qu'on veut le voir et qu'on veut se prendre en photo avec, ce qui est un peu difficile à 2 mètres, mais bon, quand même, les gens qui le font, là, clairement, c'était, oui, on voulait prendre des photos avec Jonathan Drouin, avec Marc Bergevin, mais également avec le premier ministre Legault, ça, c'est clair.
Très intéressant. On peut voir les images, évidemment, à TVA, Nouvelles et à LCN. Marianne Lapierre, merci beaucoup de nous avoir parlé.
Avec grand plaisir. Au revoir.
Merci, à bientôt.
Il est franc et nuancé. Jonathan Trudeau. La politique lui coule dans les veines.
Vous écoutez
Franchement dit.
Évidemment, ça a été une nouvelle fort bien accueillie. Là, on s'entend l'annonce de la réouverture des camps de jour à la fin du mois de juin. Par contre, une des déceptions, c'est que les camps de vacances, eux, vont demeurer fermés.
Y a-t-il été, toi, un camp de vacances dans ton temps?
Moi, j'ai jamais été un fan de ça. Bizarrement, là, peut-être quelqu'un qui est sociable, mais j'ai jamais été un fan.
J'ai jamais fait l'expérience de camp de vacances, où tu... parce qu'un camp de vacances, tu restes là, tu dors, là, tu passes une semaine, deux semaines...
Mais avoir à choisir entre un camp de vacances ou un camp de jour, choisir un camp de vacances. Parce que tu tisses des liens.
Ben oui.
Il y a un esprit de groupe, de collectivité qui s'installe. Mm-hmm. Moi, mon fils avait été dans un camp, le célèbre camp Bellefeuille en Gaspésie, l'année dernière. Il voulait retourner cette année. Malheureusement, ce ne sera pas possible. Par contre, là où je pense que bien des gens ont été rassurés, c'est que l'ouverture des camps de vacances a été autorisée pour les camps qui sont offerts aux personnes avec des besoins particuliers, qui ont des handicaps. Je pense que tout le monde doit se réjouir de ça parce que la pandémie, c'est pas évident pour personne, mais pour ces gens-là, encore moins pour leurs parents, leurs proches aussi. Ça va leur offrir du bon temps, mais aussi un peu de répit aux proches. On va en discuter avec Denis Savard, qui est directeur général du camp de vacances Cité Joie. C'est un centre de répit pour les personnes handicapées situé à Lac-Beauport et qui est en place, qui existe depuis 1962. C'est le plus important centre du genre dans l'Est du Québec. Monsieur Savard, bonjour.
Bonjour.
J'imagine que vous avez été rassuré hier de savoir que bon, il y avait une certaine mesure d'exception qui s'appliquait à votre type de camp de vacances.
Exactement. On attendait la nouvelle depuis longtemps. On entendait que possiblement la réouverture des camps de jour. Mais pour nous, pour nos familles, compte tenu que ça demande beaucoup de préparation, on avait hâte de savoir si on pourrait être en opération durant l'été 2020 de façon à soutenir nos parents, parce qu'on est avant tout un centre qui a comme mission de soutenir les familles vivant auprès de personnes ayant des problématiques particulières. Donc, pour nous, ça urgeait là, d'avoir la nouvelle pour qu'on puisse se préparer en conséquence.
Dites-moi, ça s'adresse à qui? Bon, je mentionnais des gens qui ont des handicaps, des besoins particuliers, mais de manière plus concrète, ça s'adresse à qui, votre camp?
Bien, Cité Joie est ouvert 12 mois par année. Ça, c'est une de ses forces depuis 1962. Donc, on a toujours été en mesure d'offrir un service là, directement aux parents. La priorité dans notre mission et selon ce qui avait été établi au départ par le père Bernier à Québec, c'était d'assurer un service de répit destiné aux personnes handicapées en utilisant les termes et les mots de cette période-là en 62. Donc, c'est certain que notre clientèle prioritaire touche les personnes à besoins particuliers, notamment des gens qui ont une déficience intellectuelle, des gens qui ont une déficience physique, des gens qui ont l'autisme, des gens qui sont polyhandicapés. C'est très varié quant à au type de personnes. Ça occupe environ 75 % de notre clientèle. Il y a un 25 % de clientèle qui provient de milieux scolaires. Encore une fois, on privilégie les écoles qui favorisent l'intégration des personnes dans leur rang. Ça touche aussi les groupes éducatifs. Je parle de Jeannette, scouts et guides qui viennent réserver certaines fins de semaine chez nous. Ça touche aussi les groupes familiaux. Et le 25 % je vous dirais que c'est la catégorie de groupe pour nous qui est à des fins subsidiaires. Ça veut dire que ces gens-là payent le prix que ça nous coûte pour les accueillir. Contrairement aux personnes handicapées qui nous visitent, eux, on a une politique d'accessibilité universelle pour que ça soit le plus accessible. Eux ne paient que 50 % de ce que ça nous coûte ici à Cité Joie. Le 50 % qui manque est défrayé par une partie des subventions, une partie de l'aide de donateurs, des fondations qui nous viennent en aide de façon à boucler le budget à la fin de l'année.
OK. Dites-moi, M. Savard, quel genre d'activités sont offertes à ces gens-là? Parce que quand on pense à un camp de vacances, on pense à des gens qui jouent à des jeux en groupe, qui chantent des chansons, qui se rassemblent autour d'un feu. Est-ce que c'est un peu dans la même optique? Est-ce que vous fixez des objectifs au niveau du développement ou c'est vraiment de les divertir, de les amuser? Comment ça fonctionne?
Nous, on est purement récréatif. On n'a pas de mission thérapeutique. Ça le devient par la bande. Puis, dans le fond, le Cité Joie a deux missions. Hein, c'est celle de permettre à des personnes de participer à un programme d'activité récréative en milieu naturel. Et en parallèle avec ça, c'est d'offrir du répit aux parents. Notre programmation, et ressemble de très près à tout ce qu'on retrouve, ce qu'on peut retrouver dans un autre camp. Toutes les activités de plein air sont adaptées, toutes les activités sportives sont adaptées, toutes les activités socio-culturelles sont adaptées, ce qui fait que les gens se retrouvent chez nous, mais on prend soin de bien évaluer le profil de chacun en mettant en place des adaptations qui font que la personne va pouvoir quand même pratiquer l'activité. Ici, on a comme en période estivale, on a la pêche. On est associé avec la Fédération, la Fondation de la truite mouchetée. Les gens peuvent venir à la pêche. On ensemence du poisson. Ils peuvent faire du pédalo, ils peuvent faire de la chaloupe, ils peuvent faire du canot. Mais tout ça est fait avec des adaptations qu'on a mis en place avec nos plus de nos 58 années d'existence, on a aménagé des choses qui fait que ces activités-là sont accessibles. Pour les gens qui sont vraiment trop lourdement handicapés, ben c'est sûr que, encore une fois, les activités sont différentes. On va orienter un peu différemment notre programmation. Mais globalement, quand on regarde la liste d'activités qu'on peut offrir ici, la programmation, les thématiques, autant été, hiver, automne, ça ressemble exactement à ce qu'on pourrait retrouver ailleurs.
Dites-moi, je veux qu'on parle des travailleurs, parce que j'imagine que le profil des gens qui travaillent dans votre camp n'est pas exactement le même que dans les autres camps usuels. Il doit y avoir peut-être une certaine formation, une certaine, en tout cas, sensibilité à la condition des gens que vous hébergez. Est-ce que, est-ce que j'ai raison de dire ça? Deuxièmement, est-ce qu'il y a un enjeu par rapport à la disponibilité, les nouveaux ratios qui ont été imposés par le gouvernement?
Oui, ce qui est intéressant, c'est que nous, c'est un laboratoire, c'est une forme de stage que les étudiants vivent en venant travailler ici. On donne la chance à ces gens-là de travailler 12 mois par année parce que les fins de semaine, on a des camps de répit les camps de répit sont animés aussi. Donc, beaucoup de gens qui sont en éducation spécialisée, en technique d'infirmerie, en technique de loisirs, en récréo, en psychoéducation, dans le domaine de l'éducation, on a beaucoup des gens qui tous les domaines qui réfèrent au bien-être des gens, les cours c'est assez ouvert. Par contre, on a aussi, en période estivale, des gens qui sont dans des milieux tels que la comptabilité, qui étudient durant l'hiver en comptabilité, mais qui veulent se changer les idées pour une fois, pour une période de temps des chiffres, devenir un milieu naturel pour eux autres, ça les revitalise un peu. Puis nous, ce qu'on fait, c'est qu'on donne une formation qui totalise environ 80 heures avant d'être capable d'intervenir auprès des usagers. Donc, ça comprend toutes les mesures de sécurité, ça comprend tous les modèles d'action concernant les activités, la sécurité par rapport à chacune de ces activités-là. Quand on parle de canot, de pêche, il y a des règles. Tout ce qui touche l'hygiène, les déplacements, on est suivi de très près par l'Association des camps du Québec qui a un code d'accréditation qui est très, très, très sévère et on respecte cette ligne-là de la Sécu. Ça permet justement d'avoir des bonnes personnes, des personnes juste comme vous disiez qui ont le souci de l'entraide, qui ont le souci de s'investir au cours d'un 8-10 semaines à temps plein auprès de ces gens-là, leur donner tous les soins et on sent pas la notion de travail parmi notre personnel. On sent beaucoup plus. Si on disait aux gens il y a un certain temps, offrez-vous des vacances payées, c'est qu'on sent que notre personnel vit une formule de vacances, mais en même temps en font vivre une aux gens dont ils sont responsables. Nous, les ratios sont très élevés. On a un moniteur pour un moniteur pour deux, un moniteur pour trois, selon les difficultés que la personne a à participer au camp. Donc, c'est ajusté dès le début lors de l'inscription. Et les ratios qu'on nous demande actuellement, on les connaît déjà depuis longtemps. Nous, on travaille avec ces ratios-là. C'est sûr que pour l'été 2020, avec tout ce qui se passe, Monsieur Legault l'a précisé, à l'effet que il y a beaucoup d'étudiants qui vont peut-être préférer demeurer chez eux. Mais à date, chez nous, dans les sondages qu'on a fait, on a pour l'instant et en fonction du nombre de personnes qu'on pourra accueillir, parce que c'est sûr que on pourra pas accueillir le même nombre de personnes pour la même durée de séjour, on est pratiquement prêt à accueillir, on a le personnel suffisant pour les accueillir. Okay.
En préparant notre entrevue ce matin, Monsieur Savant, je songeais à l'importance que l'ouverture d'un camp comme le vôtre revêt pour les personnes qui ont des besoins particuliers. J'avais une pensée particulière pour ma collègue Josée Legault, qui est chroniqueuse au Journal de Montréal, Journal de Québec, qui a souvent écrit sur sa situation d'aidante naturelle. Elle prend soin de sa sœur qui a une déficience. Puis Josée, entre autres, pendant la pandémie, écrit sur à quel point il y avait une difficulté particulière, toute particulière pour les gens qui ont des déficiences ou des handicaps, parce que c'est comme si eux, il y avait un double confinement, là. T'sais, ils sont confinés dans leur handicap et ça fait partie de leur quotidien. Et là, il y a une situation particulière qu'ils ne peuvent pas toujours comprendre, saisir. C'est doublement difficile pour ces gens-là.
Exactement. J'avais dit exactement les bons mots. C'est un double confinement. Les gens sont confinés en temps normal, sont déjà confinés du fait qu'ils ont moins accès à toute une série d'activités. Ça dépend toujours aussi du niveau d'accessibilité. Quand on parle de l'accessibilité au transport, l'accessibilité de l'information, l'accessibilité des coûts, ce sont il y a 8 critères d'accessibilité physique qui touche ces personnes-là. Pour un aidant naturel, ben c'est sûr que ça demande beaucoup beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour s'occuper de ces gens-là. C'est du 24 heures sur 24, c'est l'année durant, puis pour bien des cas, c'est à vie. Pour des parents, c'est à vie. D'autres, bon, c'est différent, mais généralement, la clientèle qu'on accueille chez nous, c'est les familles vivent sensiblement la même situation que Mme Legault. D'ailleurs, j'avais pris l'article et je m'en sers beaucoup actuellement auprès des gens avec qui on travaille pour démontrer jusqu'à quel point il y a de l'épuisement qui peut se ressentir. Et le double confinement, ben c'est certain qu'il est venu avec l'annonce le 13 mars dernier par rapport à la fermeture de tous les services de répit, de toutes les ressources qui étaient disponibles pour ces gens-là. Et nous, depuis le 13 mars, on n'a pas accueilli une personne. On va commencer à accueillir les personnes dans la semaine prochaine en mode répit jusqu'au début du camp d'été. On a mis en place des choses. On pouvait pas le faire avant, malheureusement. Mais ça va justement être dans le but de permettre à ces gens-là de se retrouver parce qu'ils ont des amis. Ils se retrouvent, ils participent à des activités ensemble. Et nous, dans le service de répit qui dure toute l'année, il y a des parents qui nous appellent pour dire « Est-ce que telle personne est là parce que mon fils, s'il est là, il va y aller parce que c'est son ami. » Tu sais, il y a un réseau d'amitié qui se forme. C'est une sortie. Puis il y a beaucoup de liens qui se font aussi avec le personnel, les moniteurs, les intervenants, parce que ça devient leurs grands amis. Nous, on a, durant toute la période qu'on a été fermés à l'accueil, on a entretenu nos vacanciers, nos usagers par des vidéos sur YouTube où le personnel entrait directement dans la maison. On envoyait ça par courriel, les parents les diffusaient et c'était des chansons qui étaient connues par les personnes pour justement les garder en contact avec ces joueurs, les garder en contact avec le personnel qui travaille chez nous. Donc, il y a eu toute une démarche de fait. Mais là, avec l'arrivée du camp, c'est sûr qu'on aurait aimé ça faire des camps de 10 jours cette année, mais on pourra pas faire des camps de 10 jours. Ça, on peut le confirmer dès maintenant. Mais on va être quand même capable d'offrir des camps de moins longue durée, mais ça va, les gens vont pouvoir se retrouver, ils vont pouvoir participer à des activités, mais en même temps, ils vont pouvoir, ça va donner un break aux parents. C'est le côté aussi intéressant par rapport à ce que Mme Legault disait. Ça peut être pendant 3 jours, ça pourra être pendant 5 jours. On évalue ça. Lundi matin, on se réunit, mon équipe et mes intervenants, pour dire quelle sera la meilleure formule pour être capable d'accommoder le plus de personnes possible dans un contexte où on doit respecter la distanciation sociale.
Ben, c'est une bonne nouvelle, Denis Savant, directeur général de Cité Joie. C'est drôle, hein, j'ai pas d'autres mots pour décrire mon appréciation de ce que vous faites que de dire que c'est beau. Je trouve ça beau ce que vous faites, c'est tellement utile. Je suis content de savoir qu'il y a un tel type de service qui va être maintenu, qui va être disponible autant pour votre clientèle que pour leur famille, leurs proches. Donc, Denis Savard, directeur général de Cité Joie, merci beaucoup puis bonne chance pour la prochaine saison.
Merci beaucoup. On se donnera des nouvelles à la fin de l'été.
Avec plaisir. Merci, M. Savard. Au revoir.
Des débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est Franchement dit.
Cube Radio.
Entrepreneurs d'ici. Achetons au Québec. Avec Michael Destrempes, chef de marque de la section porte-monnaie.
Nouveau segment qu'on vous présente à Cube Radio dans Franchement dit. Et Maude, je dois dire, je suis pas mal fier, moi, du travail que Québécois fait à différents égards. Le premier, pour la culture, avec le lancement de Cube Musique aussi, la campagne qu'on a lancée sur la culture, mais également pour favoriser l'achat local, pour encourager nos entrepreneurs, donc avec la campagne Entrepreneurs d'ici, Achetons au Québec, qu'on débute aujourd'hui sur les ondes de Cube Radio, mais qui est en marche depuis quelques semaines. Et chaque semaine, donc, Michael Destrempes, qui est chef du contenu chez Porte-Monnaie, puis qu'on peut entendre également sur le balado On parle d'argent, va nous présenter des entrepreneurs qu'on veut mettre en lumière, qu'on veut mettre en vedette. On l'accueille en studio. Michael Destrempes, salut!
Salut!
Alors, peut-être nous... Bon, là, je l'ai dit dans les grandes lignes, si on veut, là, mais si tu avais nous expliquer un peu plus en détail cette campagne-là, donc Achetons Québec, la campagne Entrepreneurs d'ici.
Ben, tu sais, comme tu disais, on sent l'engouement pour l'achat local, on sent que les gens veulent encourager les PME d'ici, mais encore, faut-il leur permettre là, aux marques québécoises de se démarquer, surtout en ligne, parce qu'on sait que ça va pas être facile de se battre contre les gens Amazon, Walmart et compagnie. Fait que de là, l'idée de la campagne Entrepreneurs d'ici, c'est là où on donne une vitrine aux PME sur Cube et dans la section porte-monnaie du site du Journal de Montréal.
Excellent. Donc, on va avoir l'occasion de présenter des entrepreneurs, des entreprises à chaque semaine. Et on va commencer tout de suite avec un premier entrepreneur que je te laisse nous présenter.
Bien, aujourd'hui, je parle de Super. C'est une super jeune PME fondée en 2019. C'est une gamme de produits de solutions culinaires, qui appelle ça. Okay. Donc, c'est notamment des sauces à préparation pour se faire du tartare à la maison.
Puis ça tombe... Ça me parle, ça.
Ça tombe dans ma table.
Oh, ça me parle.
Puis on s'entend, beaucoup de gens doivent s'ennuyer du tartare au resto. Donc, c'est une solution pour... vivre un peu de resto à la maison. Donc, Super, c'est le bébé de Stéphane Do, puis qui a un parcours quand même un peu atypique. Le gars, c'est un ancien réalisateur et photographe qui a travaillé dans les médias pendant quasiment, je pense, plus de 20 ans. Okay. Puis là, le gars, il cherchait professionnellement. Il savait pas trop où se situer, ça allait pas super bien. Mais le gars avait toujours été un tripeux de bouffe, puis il avait besoin de changement, puis il s'est dit, peut-être que j'ai une idée.
Qu'est-ce qui t'amène à avoir choisi ça? Puis il y a où le déclic là-dedans?
Oh mon Dieu, ben ça part de loin parce que dans le fond, quand j'ai vu que à mon travail, ils ont offert des packages pour s'en aller, j'ai commencé à mon idée quand je te parlais tantôt des chefs, que je regardais ça, puis j'étais. C'est donc beau, qu'est-ce qu'ils font, mais là, tu sais, je peux pas faire ça, je refais pas une carrière, à repartir à zéro et tout. Mais là, on m'offrait. Les moyens de passer une année à me questionner, à repartir une nouvelle carrière. Fait que là, j'ai baissé le temps, là. Là, je le fais. J'avais plus de plaisir où ce que j'étais. J'avais le goût de travailler dans la bouffe.
OK. Premièrement, c'est digne de mention, là. Allô, le courage, à 46 ans, décider de se lancer dans...
Père de famille
Exactement. Mais à partir du moment où tu as l'idée, là, bon, c'est une chose d'avoir l'idée de prendre la décision, mais là, il faut que tu mettes ça en branle. J'imagine qu'un des défis pour l'entrepreneur, c'est de savoir s'entourer, là, d'aller chercher les gens qui ont les compétences de ton incompétence.
Ben justement, parce que c'est là qu'il a été quand même très intelligent, Stéphane, parce que comme beaucoup d'entrepreneurs là, qui se lancent en suivant une passion, souvent la clé du succès, c'est de bien s'entourer pour couvrir ses angles morts. Parce qu'on peut être trippé sur quelque chose, ça veut pas dire qu'on est bon en comptabilité, en développant des affaires. Fait que lui, justement, il s'est associé avec le chef Jean-Simon Petit, qui est un ex-participant à l'émission Les Chefs. Il avait travaillé avec lui dans le passé. Donc, il a commencé avec lui à développer ses premières recettes. Il a fait appel à ses amis en marketing pour l'aider avec son branding. Mais aussi, comme il m'a expliqué en entrevue, il a beaucoup appris sur le tas.
J'ai pas fait le décompte, mais je suis pas loin de 55 points de vente.
OK.
Fait qu'en moins d'un an, pour un gars qui connaissait rien du milieu, j'ai réussi à tout faire ça moi-même. J'ai été cogné aux portes. Et depuis septembre, octobre passé, je suis rentré dans les IGA. J'ai les marchés Lambert que je suis arrivé avec ma glacière. Un vendredi matin à 10h30 à Bromont, au marché Lambert, j'ai rencontré le directeur. Puis j'ai fait goûter live Je sais pas si ça se passe comme ça dans la vie. Ben, je fais tout, en fait. De la vaisselle, de la production, de la livraison, le démarchage, les dégustations.
Tu dis, Michael, donc, c'est une jeune entreprise, puis tu sais, je me souviens, il y a quelques semaines, là, lorsque les gouvernements mettaient en place différents programmes d'aide, notamment la subvention salariale, tu sais, on prenait la mesure d'à quel point des entreprises bien établies étaient impactées par la pandémie, par la crise économique, mais il y a bien des gens qui disaient, oh, mais attention, il faut penser aux start-up aussi, là. Tu sais, les entreprises qui, elles, ne peuvent pas dire, ben, j'ai vu une diminution de mon chiffre d'affaires de tant de pourcents, parce que, bon, ils sont dans leurs premières années d'activité. J'imagine que pour une jeune pousse comme Super, la pandémie, là, ils l'ont senti, eux autres aussi.
Bien, surtout pour un produit niché comme une sauce à préparation pour tartare, c'est pas nécessairement un produit que les gens sont super familiers avec. Donc, c'est un énorme travail de terrain pour que les gens adhèrent au produit. Donc, lui, les mesures de confinement arrivent. Il y avait toute une grande tournée de séduction en épicerie prévue pour tout le printemps. Ça tombe à l'eau. Puis là, Stéphane m'a même avoué là, qu'il a quand même paniqué sur le coup. Mais heureusement, il s'est reviré sur un 10 cents. Puis c'est souvent une belle qualité des entrepreneurs, des bons entrepreneurs. Puis il s'est mis à pousser la promotion de ses produits en ligne. Puis là, il a eu la chance de se faire remarquer par Daniel Grenier, c'est l'humoriste ancien membre des Chicken Swell.
Ben oui!
Fait que je vais écouter ça.
Il fait des unboxings de produits québécois. Mais quand il a parti, il a fait une vidéo pour dire qu'il allait faire ça. Ma blonde a vu ça. Elle l'a contacté. On a été le porter le soir même chez eux. On a
fait. Ok, t'es un gars qui perd pas de temps, toi. Là,
non, jamais. Ben en fait, ça c'est bravo à ma blonde parce que c'est elle qui le fait. Mais c'est ça. Je suis avec les mêmes genres de personnes que moi. Et elle a été portée. Elle a fait son pitch. Puis ça s'est donné qu'il a fait la première vidéo sur notre produit. Ça l'a amené 45 000 views en une semaine.
Quand même. Wow. Hein, on reconnaît, Michael, les réflexes des bons entrepreneurs. Hein. Ils sont fonceurs, ils n'hésitent pas, survivre sur un 10 cents, ils ont un front de bœuf. On le voit vraiment dans les propos de Stéphane Do. Dis-moi, au final, là on est avancé dans la pandémie. Ils s'en sortent comment en ce moment, super?
En ce moment, Stéphane me dit qu'il s'en sort quand même relativement bien. C'est sûr, c'est pas parfait, mais il m'avoue que pour les ventes en ligne, avril, ça a été son meilleur mois à vie. Fait que il y a du très bon qui se passe là. Puis je veux dire, on voit que les gens veulent cuisiner à la maison puis sont prêts à essayer des affaires parce qu'on a besoin de nouvelles recettes. Ça fait longtemps ça fait deux mois qu'on cuisine à tous les jours. Puis aussi, tu sais, Stéphane comprend quand même là, que des sauces à tartare, c'est pas un produit essentiel, mais il espère quand même que l'engouement pour l'achat local va se poursuivre puis l'aider à développer des nouvelles idées là, qui pourraient aider les Québécois à bien manger à la maison.
Mais on dirait que
tout le monde adhère à mon projet, mais en même temps, j'ai pas la prétention de nourrir le Québec. Mais j'aurais envie de pouvoir développer toutes mes autres idées que j'ai en arrière parce que j'en ai plein d'autres idées, de toutes mes idées de solutions culinaires, que ce soit pas juste au tartare, mais que ça peut être aussi au niveau de la cuisson puis toutes ces choses-là.
Et tu disais, le tartare, c'est pas un produit essentiel, mais on dirait qu'en temps de pandémie, là, on veut tellement essayer plein d'affaires qu'on n'a jamais essayé. T'sais, le monde s'est mis à faire du pain, je veux dire.
Là, on est rendu loin dans le pain.
Aussi,
là.
Pas mal, on peut, tu sais, ça, laisser le pain de côté, puis let's go le tartare. Là.
Exactement. Fait que c'est un. Je veux dire, on s'entend que Stéphane m'avoue que c'est pas un timing idéal, mais justement, quand on est en affaires, des fois, c'est une question de saisir les opportunités. T'sais.
Ben tant mieux, nous on peut par le biais de nos médias avec le porte-voix qu'on a, l'influence qu'on a, si on peut les mettre en valeur, ces entrepreneurs-là, s'inspirer de leurs histoires puis en même temps leur donner un coup de pouce, donc super, c'est l'entreprise de la semaine qu'on présentait. L'entretien complet que tu as effectué avec Stéphane Do est disponible sur le balado On parle d'argent et pendant ce temps-là, la campagne qui se poursuit, j'imagine il n'est pas trop tard pour les entreprises qui souhaiteraient s'inscrire, Michael?
Non, il n'est pas trop tard, ça dure jusqu'en juillet, on invite les gens aller sur la page Facebook de Porte-Monnaie. C'est la première publication au haut de la page. Elle était épinglée là. Et on peut juste se soumettre dans les commentaires son entreprise puis nous donner une petite raison pourquoi on devrait la sélectionner.
Super intéressant. Ben, Michael, c'est une belle initiative. On aura l'occasion donc de se reparler à chacune des semaines, à chaque semaine pour présenter ces entrepreneurs-là. Michael Détrempe, merci beaucoup. À la semaine prochaine.
Merci.
Franchement dit.
Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
1877-827-2346.
J'ai bien hâte de parler à notre prochaine invité, Maude, parce qu'il y a un lien, j'ai envie de dire, indirect à faire avec la pandémie et surtout certaines préoccupations que les parents ont de donner du lousse à leurs jeunes, à leurs ados qui sont confinés, qui sont à la maison. On les laisse davantage devant les écrans, devant les jeux vidéo, puis on se dit, ouais, c'est jeux vidéo, c'est-tu bon? C'est ça, mais en même temps, ça se peut-tu qu'il y a, y a moyen d'apprendre avec les jeux vidéo lorsque ce sont les bons jeux vidéo, lorsqu'ils sont bien utilisés? Mm-hmm. Et il y a une recherche donc qui a été rendue publique qui démontre que oui, il y a moyen d'avoir un niveau d'apprentissage fort important, fort appréciable, peut-être même plus que les façons usuelles. On va en discuter donc avec Martin Riopel, qui est chercheur et vice-doyen à la recherche de la Faculté des sciences de l'éducation. Monsieur Riopel, bonjour.
Bonjour.
Dites-moi, présentez-nous cette étude-là. Donc, on parle d'une méta-analyse de 79 études réalisées dans des écoles primaires, secondaires, post-secondaires. Quels sont les détails, les critères de cette étude-là?
Effectivement, on a en fait recensé tous les articles qui avaient été écrits depuis les années 2000 environ sur les jeux vidéo et l'apprentissage des sciences. Donc, on a recueilli tous les articles qui étaient faits avec suffisamment de rigueur pour qu'on puisse analyser les résultats. On a mis tous ces résultats-là ensemble pour essayer d'en extraire le maximum d'informations possibles. Donc, de répondre à la question, est-ce que les jeux font apprendre les sciences mieux qu'un enseignement traditionnel? C'était la première question, puis la réponse était oui, ils permettent de faire un peu mieux apprendre qu'un enseignement traditionnel. Donc, c'est vraiment intéressant comme résultat dans un premier temps.
Donc, avec vos collègues de l'UQAM, vous avez fait ce travail très, très important. Dites-moi, de ce que je me souviens là, de mes apprentissages par rapport à la science, aux études, normalement, on part avec une hypothèse de base qu'on tente d'infirmer ou de confirmer. Est-ce que c'était le cas pour vous? Puis est-ce que cette hypothèse-là tendait effectivement à vouloir démontrer qu'il y avait des avantages?
Oui, ben nous on était assez convaincus des avantages parce qu'on développe nous-mêmes des jeux dans notre équipe et on a fait des expériences pour essayer de voir est-ce que ces jeux-là faisaient apprendre de façon significative. Et oui, on est arrivé à la conclusion à chaque fois que les enfants apprenaient et même de façon surprenante, des fois apprenaient très bien. Donc par exemple, un jeu sur les fractions qu'on a développé, lorsqu'on l'a testé avec des enfants de troisième année pour apprendre les fractions, ben on a remarqué au niveau de résultats de tests internationaux sur les fractions, qu'ils rattrapaient les enfants de quatrième année. Les enfants de troisième année, en jouant au jeu, devenaient aussi bons que les enfants de quatrième année aux tests internationaux. Donc, il y avait vraiment un effet d'apprentissage qui était significatif et important. Donc, on avait l'hypothèse que oui, on allait trouver quelque chose comme ça, et c'est ce qui est arrivé.
Et comment on l'explique, M. Riopel? Est-ce que c'est l'aspect ludique de la chose? Comment on peut tenter d'expliquer que l'apprentissage va être même plus efficace que les manières traditionnelles?
Ben c'est très intéressant, votre question, surtout avec l'idée de l'aspect ludique de la chose, parce qu'on a essayé de voir quelles sont les variables qui influençaient l'apprentissage, donc parmi toutes les variables possibles. Et une des variables, c'était justement l'aspect ludique du jeu. Est-ce que le fait que le jeu soit plus ludique ou moins ludique influence l'apprentissage? La réponse pour ce qui est de l'aspect ludique, c'est non. Ça ne produit pas du tout d'effet sur l'apprentissage.
Ah non?
Par contre, c'est très étonnant parce qu'on voyait bien que le jeu produisait un effet, mais ce n'est pas son aspect ludique. Par contre, ce qui produisait un effet, ce qu'on a observé, qui produisait un effet, c'est l'aspect d'avoir du contrôle sur le jeu, de pouvoir interagir avec le jeu de façon constructive, si on veut. Donc, cet effet-là a modulé l'apprentissage d'une façon importante. Et un autre effet, c'est la durée du jeu. On a vu que plus l'intervention est courte et plus l'effet est grand. Ce qui veut dire que on pourrait dire, par exemple, par rapport aux ados qui passent plein de temps, que de jouer trop longtemps, ça ne produit plus d'effet sur l'apprentissage à partir d'un certain moment. Et donc, il faut bien doser les interventions pour que ça puisse faire apprendre. L'autre variable qui est probablement déterminante, c'est le fait que le jeu soit développé pour faire apprendre. C'est pas n'importe quel jeu qui fait apprendre quelque chose du tout. Pour l'école, on comprend bien.
je trouve l'aspect du contrôle fort intéressant. Puis l'image que je me fais en tête, c'est par exemple, moi, là, bon, chacun a eu ses techniques pour bien réussir à l'école, mais moi, des fois, si je faisais de la révision, juste de réécrire manuellement, moi, d'écrire ce que j'essayais d'apprendre, j'avais pas besoin de revoir le papier. Après, juste de l'avoir écrit, on dirait que je l'assimilais. C'est un peu ça, le fait de jouer un jeu, de contrôler l'opération et tout ça. Il y a quelque chose, un contact qui est plus direct avec la matière à assimiler, quoi.
Oui, oui, absolument. L'idée, c'est un contact qui est plus direct et ça permet un cheminement, quand on y pense, plus personnalisé. Dans les jeux qu'on a développés, nous, on fait des jeux qui ciblent les obstacles à l'apprentissage. Et là, l'enfant, l'élève, va essayer quelque chose qu'il pense vrai et là, il va observer que ça ne fonctionne pas. Et là, ensuite, il va changer sa stratégie pour réussir le jeu. Et ce changement de stratégie-là, c'est ça qui va produire l'apprentissage. Et effectivement, lorsqu'on contrôle nous-mêmes le jeu, ben on peut tester les idées qu'on a par rapport au phénomène. Et donc, d'un point de vue scientifique, ça a beaucoup de sens. Et par la suite, à force de faire des expériences, on finit par faire évoluer notre conception vers la bonne conception. Ce qu'on fait moins lorsqu'on reçoit un enseignement passivement, c'est logique.
Est-ce qu'on est en mesure, selon ce que vous avez observé dans l'étude de M. Riopel, de savoir pour quel groupe d'âge les avantages sont plus marqués si on compare, par exemple, les jeunes du primaire aux jeunes du secondaire, au niveau collégial, universitaire?
Oui, oui, c'est un résultat très intéressant. On est surpris, à la fois intrigué par ça. C'est les étudiants du secondaire qui profitent le mieux des jeux vidéo. Les étudiants du primaire en profitent aussi, mais c'est vraiment au secondaire que l'effet semble être le plus grand. Donc, ça pose toutes sortes de questions par rapport à l'apprentissage des sciences. Est-ce que c'est parce qu'à cet âge-là, ils seraient plus réceptifs à la dynamique du jeu ou peut-être qu'ils ont besoin de plus interagir personnellement avec le jeu? Est-ce que c'est parce que leur esprit est prêt à recevoir les modèles scientifiques en question? Ça soulève plus de questions que d'autres choses, mais c'est vraiment intéressant de voir que c'est au secondaire que ça produit les plus grands effets.
Avez-vous l'impression que vos conclusions vont un peu à contre-courant de certaines idées généralement reçues, parce que de plus en plus on voit des écoles qui vont interdire par exemple les téléphones, certains vont remettre en doute le réflexe qu'on a là, beaucoup se tourner vers les tablettes, vers les moyens d'apprentissage électronique. Est-ce que vous rencontrez de la résistance ou les gens sont à même de faire la part des choses entre des jeux qui utilisés intelligemment, sporadiquement peuvent avoir un impact positif et le téléphone tout azimut, l'écran tout azimut?
Ben, je pense que les gens sont bien conscients que l'écran tout azimut n'a pas beaucoup de sens là, au niveau scolaire, mais lorsqu'on est modéré, je pense que oui, les gens comprennent très bien qu'il y a un potentiel avec ça et ils ont juste à jouer quelques minutes avec un jeu bien construit pour voir l'effet tout de suite. Là. On sent tout de suite qu'on est en train d'apprendre quelque chose et c'est très intéressant et amusant et raisonnable dans le milieu d'utiliser ça. Le défi, c'est de bien les utiliser, de bien les scénariser, de bien les coordonner avec les autres façons d'apprendre en classe. Parce qu'on comprend que si on ne fait que des jeux, c'est un des résultats d'études, et si c'est des durées qui sont trop longues, l'effet sur l'apprentissage diminue.
Dites-moi, je voyais des exemples de jeux auxquels vous-même vous avez participé là, dans l'élaboration. Bon, Mechanica sur les rudiments de la physique, un autre jeu sur l'identification des oiseaux, des papillons, des constellations. Est-ce que ce sont des jeux qui sont accessibles pour tout le monde ou c'est vraiment pour l'enseignement en classe? Est-ce qu'on peut se les procurer, par exemple?
Ces jeux-là, les deux que vous avez mentionnés, sont complètement gratuits et disponibles en ligne. Les gens ont juste à aller sur mon site personnel, riopel.incam.ca, ils vont trouver le lien, ils peuvent cliquer et jouer déjà. Pour apprendre les oiseaux, et c'est fait pour n'importe qui, hein, c'est extrascolaire. Le jeu sur la mécanique est aussi un jeu auquel n'importe qui peut jouer, mais ça va vous rappeler des réflexions que vous avez faites quand vous avez fait des cours de physique, par exemple, sur la cinématique, sur les forces. Tout le monde a des conceptions par rapport à ça, et c'est très amusant. Le jeu sur les fractions, par contre, lui, il faut l'acheter, mais il ne coûte pas très cher, c'est 5$ sur la Play Store. Et c'est un jeu là, qu'on télécharge comme les autres jeux.
Vraiment, vraiment intéressant. Ça va trouver preneur chez nous. On parlait justement cette semaine avec ma collègue Maude que mes enfants se sont développés une passion pour les oiseaux, l'observation. Oui, donc, assurément, on va aller consulter ça. Martin Riopel, donc, vous êtes chercheur et vice-doyen à la recherche de la Faculté des sciences et de l'éducation de l'UQAM. Très, très, très intéressant. Merci de nous avoir parlé.
Ça m'a fait plaisir. Bonne journée à vous.
Merci, au revoir.
Vous écoutez
Franchement dit.
J'aurais peut-être pas été une bonne en science, Joe. Toi. ça aurait pu arriver, là. Je veux dire, je t'en ai parlé.
Il a pas dit que ça changeait tout non plus, là.
Non, mais quand je joue un jeu vidéo, là, nouvelle passion que j'ai découvert en temps de pandémie, je suis concentrée sur rien qu'une affaire. je regarde pas mon téléphone, je me concentre pour que mon dragon ne meure pas. Fait qu'imagine si je m'étais...
À quoi tu joues, mon
gars? À Tamagotchi.
Just Spyro the Dragon?
Ben oui.
Oh, quel
il crache
bon
les cheveux, il est tout petit, il est mauve, il est bien cute, mais je me concentre juste
aucune
là-dessus.
Aucune idée de quoi vous parlez.
Imagine
c'est un très, très bon jeu. Une bonne
imagine
franchise.
Si j'avais été concentrée sur mes sciences. J'étais vraiment pas bonne. Là, comme. J'avais un très bon prof, mais j'étais pas bonne. J'avais de la misère
et
avec mes maths et mes sciences.
J'aimais pas ça, moi non plus.
Pas ma force.
La voix que vous avez entendue, c'est celle d'Alexandre Moranville-Ouellette qui se joint avec nous pour finir l'émission. Salut, Alex.
Salut, Joe.
Hey, avant qu'on aille à vos sujets, à tes sujets, il oui. y a un truc dont Maud et moi, on voulait parler aujourd'hui, puis tiens, je vais t'inclure dans la conversation, puis on va voir où ça va nous mener. C'est cet article qui a été publié dans le journal ce matin, qui parle des effets terribles de la trampoline sur nos jeunes.
Ouais.
On parle de 6000 blessures qui ont été répertoriées en 2012 ouais. et 2016 à cause des trampolines. Je sais que vous avez pas d'enfants, là, mais non. mettez-vous dans la peau d'un jeune parent, là. La trampoline, pour ou contre?
C'est un énorme débat.
Ben, je trouve ça fort, fort agréable. Là, surtout sur, maintenant qu'on peut dire une trampoline, en passant, c'est le rêve d'une vie. Oui, on peut. Officiellement, ça a été changé. Ouais. C'est plus seulement un trampoline qui était complètement contre-intuitif. Merci la langue française. Mais sinon, je pense, moi, je suis pour, là. C'est agréable. Faut faire attention, c'est tout.
Ben, c'est ça. Sous supervision, mettons, avec des petits filets sur le côté, je veux dire... J'aimerais mieux que ce soit dans ma cour que, mettons, ma fille ou mon gars est chez ses amis en cachette pour faire de la trampoline sans que je le sache, puis qu'il n'y a pas de filet de sécurité. Je dis ça, je dis rien. J'ai pas fait ça, moi. Non, j'ai pas...
Mais non,
j'ai respecté
ça.
Les consignes que ma mère me donnait. Là. Moi, j'ai pas... Tu sais, puis on essayait surtout pas de se cacher parce que c'était comme la voisine qui était en avant, mais en arrière de la maison d'en avant. Fait que, tu sais, quand tu sautes trop...
Mais donc, ta mère, elle voulait pas. Marjo, elle disait de la trampoline, c'est un no-no.
Ouais, non, elle était pas très partante pour ça. Tu sais, je veux dire, je prenais des petits cours de gymnastique quand j'étais petite, puis tout ça, puis la trampoline, c'était belle fun, puis tout ça. Mais chez les amis, c'était comme moyen. Puis c'est correct, je la comprends.
Moi, ma performance sur une trampoline, ça ressemble à si tu lâches une brique sur la trampoline, t'attends de voir ce qui se passe, là, personnellement. J'aime quand même ça.
je faisais pas des front flips puis des back flips, là, on s'entend. Je gardais ça.
Vous verrez pas une trampoline arriver dans la cour chez nous, là. C'est hors de question. Je pense que le fait d'avoir une conjointe dans le milieu de la santé fait en sorte que mes enfants peuvent mettre une croix là-dessus, là. Parce que justement, elle, ça fait des années qu'elle me dit ouais. c'est épouvantable le nombre de cas de fractures qui arrivent dans les urgences, les commotions cérébrale, ouais. les jeunes qui sautent tout croche là-dedans, 4-5 dans une petite trampoline avec pas de filet autour ou un petit filet. Sincèrement, là, moi, d'aller dans un centre un centre où il y a des trampolines, là, des grosses trampolines et tout ça, OK, parfait.
Ah, moi,
dans le cours chez nous, tu verras jamais ça.
Moi, c'est le contraire, en fait, Joe, c'est ce que j'allais te dire. Comme, je viens de me rendre compte, là, j'y réfléchis, puis moi, là, les places comme iSaut ou d'autres endroits là, comme ça, là, de trampolines, des centres, moi, personnellement, là, je connais des adultes, là, des jeunes adultes de mon âge, là, des amis, j'en connais plusieurs là, qui se sont cassés un tibia, un pied, une clavicule en faisant ça. Non, moi, on dirait que tous les cas que j'entends de blessures, c'est des gens qui veulent aller impressionner leurs amis okay. dans un centre.
Mais tu as un bon point. Je précise, là, c'est ce genre de centre-là dont tu parles, effectivement, que ça, mes enfants n'iraient pas plus, mais il existe des endroits où c'est très, très, très contrôlé. C'est pour les enfants. Par exemple, mon gars était dans une fête d'amis, là, il y avait un centre un peu comme celui-là, mais plus pour les jeunes.
Okay.
Tu peux jamais avoir plus d'un enfant en même temps sur le trampoline. C'est vraiment bien protégé. Tu as des parcours. Tu sais, ça, c'est correct. Mais effectivement, que les centres dont tu parles, où il y a plein de cas qui ont été répertoriés de monde qui se... Écoute, c'est des fractures ouvertes, là. C'est pas beau.
Si tu te garoches, tu penses que les blocs de mousse, ça va tout absorber, puis que t'es correct, puis que toi, tu vas tomber, là, comme un chef, mais c'est pas ça qui se passe. Moi, ces centres-là, je suis jamais allée, puis vous me verrez jamais la face là-bas. Mais c'est sûr qu'une trampoline dans ta cour, en tant que parent, si t'en installes une, faut que tu t'attendes à ce que tous les petits voisins viennent, puis il faut que tu t'attendes à ce que ce soit toi la police, puis toi qui surveille. Si tu es prêt à ça, ouais. parfait. Sinon, ton enfant peut s'en sortir sans trampoline, puis le jeu du popcorn, c'est probablement un des pires jeux que tu peux faire.
C'est tellement vrai, ça.
Que tout le monde se pitch, là?
Non, mais c'est parce que tout le monde est en petite boule, puis là, il y a une personne dans le milieu qui saute. Fait que là, toi, tu revoles, mais là, il faut pas que tu lâches ta position de popcorn, comprends-tu?
Il y a toujours un blessé à ce jeu. Toujours.
C'est clair.
C'est comme le roi de la montagne version trampoline. Jamais une bonne idée.
Un bon débat de réglé, hein?
Ben oui.
Hey, avant qu'on se laisse, tiens, je veux parler d'un des sujets que tu proposais, un rave en Allemagne qui est particulier. Est-ce que c'est un rave qui va respecter la distanciation sociale et physique?
Oui, puis l'Allemagne est bien connue pour ses raves, ses soirées endiablées et autres. Vous vous souvenez, on avait parlé dernière fois d'un concert, si on veut, là, un drive-thru un peu. Mais c'était le même concept, mais pour des raves qui étaient organisés là, par le club Index à Schüttorf. Et écoute, Achille, blast-nous ça. Faut que vous entendiez ça, c'est complètement incroyable. Et en place, les gens en place de crier, tout le monde klaxonne de partout, les fenêtres fermées, tout le monde est dans leur voiture, tu vois les autos qui shake d'un bord et de l'autre. Fait que c'est sécuritaire, hein, tout le monde dans sa voiture.
Ah oui.
Mais écoute, ça a brassé de tout bord, tout côté. Moi, je trouvais ça complètement là, incroyable. Alors, il y était.
Faut-tu avoir besoin de rêver, tu penses? Hein,
500 rêver, personnes rêver. Dans un parking. Hey. 500 personnes. Je trouve ça fou, là. Je trouve ça fou que les klaxons. Ah, moi, en tout cas,
ça m'échappe totalement.
On a besoin d'un effet de foule. On a besoin des fois là, de musique, de bouger, de d'être secoué par de la grosse bass. Moi, je peux comprendre cette envie-là, cet engouement-là. Ça me manque un peu. Alors, moi, je serais prêt à aller faire ça, un rave en auto.
OK. Hey, il nous reste un petit 2 minutes. Tu peux nous parler du football club du FC Séoul qui a été mis à l'amende.
Ouais, 100 millions de won, c'est à peu près 74 000 euros si on convertit pour le FC Séoul.
Donc, parce... 150 000 piastres.
Ouais, à peu près. Parce que ils ont disposé dans leur gradin, comme plusieurs équipes, entre autres en Europe en ce moment, là, surtout en Allemagne, où on reprend là, graduellement les matchs de foot professionnel. Il y en a plusieurs là, qui mettent dans les gradins des mannequins et autres. Mais là, le problème, c'est que parmi les mannequins qui ont été mis dans les estrades du FC Séoul, Jonathan, tu devines ce qui est arrivé? Il y a ces mannequins qui étaient des poupées sexuelles.
Oh.
Ouais. Oui, wow. Au moins une dizaine de poupées sexuelles, là, des vrais en silicone et tout, là, de luxe, on me dit, à l'oreille.
De luxe.
qui étaient là, dans les estrades, là, parmi les autres mannequins qui étaient là ben, pour recréer une espèce d'ambiance de foule, mettre de la vie dans les gradins alors que ça se joue évidemment là, à huis clos. Mais une amende là, solide qui leur a été apportée. Là, on dit que c'est disgracieux, c'était vraiment de mauvais goût. Il y aurait même là, le club qui ont clamé leur bonne foi, ils ont dit qu'ils ignoraient ça. Mais même, il y aurait un employé qui aurait été mis à pied pour ça parce qu'il aurait joué ce mauvais tour-là d'inclure des poupées. Mais
voyons donc.
Ouais, ben oui, regarde, c'est pas...
Je m'excuse, mais des fois, dans des rassemblements sportifs, on voit des gens dans les estrades qui sont beaucoup plus disgracieux qu'une poupée gonflable qui est stationnaire sur un banc.
Séoul en Corée du Sud. T'sais. Moi, je me dis que c'est peut-être moins pire qu'en Europe. Un tout petit peu, mais peut-être. Je veux pas avancer quoi que ce soit. Je n'ai pas les données devant moi. Mais quoi qu'en soit, en ce moment, c'est vraiment une belle question. Hein, comment remplir les gradins pour la reprise des événements sportifs. Je pense que c'est au Danemark, entre autres, où ils voulaient faire ça un peu comme sur Zoom. Mettre des sur un gros écran géant, mettre des places de tous les fans qui peuvent regarder sur Zoom le match en même temps. Je sais qu'il y a un autre endroit en Europe, je suis plus certain si c'est aux Pays-Bas ou en Allemagne, où tu fais payer ton billet pour être dans les estrades, mais une version, un cardboard cutout en anglais, là, une version en carton, une image en carton, grandeur nature de toi, à ta place, dans ton siège, au match.
Ça, je veux.
Ah là là, voilà. Et merci Alex, ça a été un plaisir de t'avoir en remplacement de Dess. On se reparle pour ta chronique la semaine prochaine. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. Un gros merci à toute notre équipe, à Achille Moinet, à Frédéric Mocoll, à Véronique Morin qui était à la recherche aujourd'hui. Passez un bon week-end. Faites attention, là. Tu sais, ouvrez les vannes, là, mais faites attention. Déconnons pas. Restons quand même disciplinés et ça va bien aller, qu'ils disent. Je peux pas croire que je finis là-dessus. Sophie Durocher qui s'en vient. On se reparle lundi à 10h. Salut.
Bye.